Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Bidibi et Hermione Pouéban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Ce soir, nous voulons parler de comment l'on peut gérer la relation du couple et de la belle famille. Aujourd'hui, c'est une question qui est en train de détruire beaucoup de couples et qui est en train de briser des relations familiales entre des familles qui régissent le couple. Et beaucoup de malentendus viennent de ce fait-là. Et c'est pour cela que nous avons jugé bon de partager avec vous, selon la parole de Dieu, ces enseignements-là. Alors, je ne pourrai jamais commencer sans définir qu'est-ce que c'est qu'un couple avant de définir ce que c'est que la belle famille. Parce que nous ne savons pas souvent ce que c'est que le couple. Et c'est dommage parce que la jeunesse, nous jeunes d'aujourd'hui, quand on nous parle de couple, nous regardons simplement un homme et une femme. Un homme et une femme qui décident de vivre ensemble, de partager une partie de leur vie sur cette terre. Laissez-moi vous dire que la relation du couple, c'est-à-dire où un couple, va beaucoup plus au-delà du fait que deux personnes se mettent ensemble. Un couple, par définition, c'est au commencement deux personnes qui viennent de divers horizons. Deux personnes qui ont reçu différentes éducations. Éducation culturelle, éducation sociale et beaucoup d'autres choses. Mais qui décident de vivre ensemble. Et moi, je définis le couple parce que souvent, on a l'habitude de dire qu'un couple, c'est deux personnes qui regardent dans la même direction. Je dis non. Pour moi, un couple, c'est deux personnes qui se regardent dans les yeux, qui arrivent à se comprendre, qui arrivent à s'auto-éduquer, qui arrivent à définir un mode de communication, qui arrivent à définir les bases de leur foyer. Et c'est en cela que j'ai fait une démonstration aujourd'hui, ce matin, que je vais reprendre. C'est dommage qu'il n'y a pas de personne. Mais je vais peut-être inviter quelqu'un, que quelqu'un vienne volontaire. Regardez dans la direction là-bas. Regardez là en face. Est-ce que nous sommes dans la même direction? Nous regardons dans la même direction. On est d'accord? Il regarde toujours dans cette direction. Je suis toujours là dans cette direction, mais je suis là. Qui constate quoi? Je regarde ailleurs ou je ne regarde pas dans la même direction que lui? Je regarde dans la même direction. C'est-à-dire, j'ai la tête dans la même direction que lui, mais je ne regarde pas dans la même direction que lui. Alors, si vous définissez le couple par deux personnes qui regardent dans la même direction, c'est qu'ils ont la tête dans la même direction, mais ils ne regardent pas dans la même direction. Je peux choisir de regarder où je veux, tout en ayant ma tête fixée à une direction, dans un sens. Mais, quand on dit que le couple, c'est deux personnes qui se regardent droit dans les yeux, je le rappelle. Revenez. Là, je lui fais face. N'est-ce pas? Et j'ai dit que je définis le couple par deux personnes qui se regardent dans les yeux pour se parler, pour définir un mode de communication. Je suis en face de lui comme ça. Nous nous regardons dans les yeux. Je fais ça. Qu'est-ce que vous avez constaté pendant que je vous parle? Pardon?
Vous avez détourné le regard.
J'ai détourné le regard, mais pourtant... Ça dit, en temps normal, il n'a pas compris. Quand je fais ça, il va me dire, mais tu es en train de me parler, mais pourquoi tu es distraite? Mais pendant que nous sommes côte à côte et que nous regardons comme ça, lui, à côté de moi, ne saura jamais que je suis distraite, que je regarde dans un autre sens. Donc, ce n'est pas deux personnes côte à côte qui regardent dans la même direction. La belle preuve, quand l'autre est distrait, c'est que le second ne saura jamais qu'il est distrait. Seul celui qui est en face et qui est attentionné peut savoir que l'autre est distrait. Mais quand nous sommes ensemble, nous nous regardons droit dans les yeux, à un moment donné, il peut me dire, mais tu es distraite. C'est pourquoi quand on salue des gens parfois, d'autres disent, mais tu me salues, mais tu ne me regardes pas droit dans les yeux. Donc nous devons nous regarder dans les yeux pour attirer l'attention de l'autre en cas de déraillement. En cas de perte de voix. C'est à cela que le couple est identifié. C'est ça l'explication du couple. Mais quand nous sommes dans le couple, vous allez voir que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a toujours une autorité que Dieu établit dans n'importe quel domaine. Et quand on revient dans le couple, l'homme a son autorité, la femme a son autorité. Mais l'autorité des deux ne s'exerce pas de la même façon ni au même moment. L'homme a reçu l'autorité d'être le chef de famille, le pourvoyeur aux besoins de la famille. Quand je parle de besoins, il s'agit de besoins en matière de finances, il s'agit de besoins en matière de bonheur, il s'agit de besoins en matière d'épanouissement, de besoins dans tous les sens, dans tous les domaines de la famille et des enfants lorsque vous les avez. Mais la femme aussi a son autorité. L'autorité de compléter son mari. Et quand monsieur le mari n'est pas là, son autorité parfois est exercée. Mais le chef suprême de la famille, c'est l'homme. Et toute autorité ayant été établie par Dieu pour faire du bien à quelqu'un, alors, si nous ne rentrons sous cette autorité, nous ne pouvons rien avoir dans la vie. On est d'accord. Je prends par exemple mon cas. Je suis d'ailleurs la responsable du groupe Commando Gospel de Jésus. Et c'est moi qui ai établi d'autres autorités dans le groupe. Mais il s'est fait qu'au début, moi, je ne sais pas chanter. Je n'ai pas le don de chanter. Mais il faut maintenant que quelqu'un m'apprenne à chanter. Et voilà mon soliste, David, décide de m'apprendre à chanter. Et nous nous retrouvons peut-être un jour pour apprendre. Qui va se mettre sous l'autorité de qui, selon vous? Exactement. C'est pourquoi quand il s'agit de m'apprendre quelque chose, j'oublie la directrice générale adjointe de Global Service que je suis, de toute la fondation que je suis. J'oublie la responsable du groupe que je suis. J'oublie peut-être la relation d'Ernest qui est entre nous. Et je me mets sous son autorité afin qu'il prenne ce que je dois apprendre, parce qu'effectivement, je suis l'apprenante. Et la Bible dit dans le livre des Exodes, un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. J'adore ce verset-là. On n'a pas dit un jeune homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. On n'a pas dit un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une femme de la maison de Lévi. Quand on parle d'abord de la maison de Lévi, dans tous les cas, ça veut dire la même conviction spirituelle. Ça ne veut pas dire la même dénomination. Ça ne veut pas dire les mêmes religions. Mais la même foi. Parce que si vous n'avez pas la même foi, vous ne pouvez aller nulle part. Il n'y aura jamais un mode de communication défini au sein du couple. Voilà. Donc, deux personnes qui ont les mêmes foi, qui partagent les mêmes foi. Mais un homme, quand on dit un homme, pour moi égale maturité. Quand on dit un homme, égale à autorité. Quand on dit un homme, égale à responsabilité. Quand on dit un homme, il y a beaucoup de choses dedans. Et quand on dit que l'homme a pris pour femme une fille de la maison de Lévi, quand on dit une fille, égale immaturité, égale quelqu'un qui a besoin d'être protégé, manque de protection, ça veut dire que nous sommes dans une relation où quelqu'un doit apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, et surtout l'autorité. Alors la femme doit rentrer sous l'autorité de son mari. Mais les hommes, vous n'êtes pas des John Brie. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment vous devez exercer votre autorité. Si la femme ne rentre pas sous l'autorité de son mari, elle n'aura rien. Si je refuse de rentrer sous l'autorité de David, il peut même, à la limite, faire semblant de m'apprendre quelque chose. Mais au finish, il ne va rien m'apprendre. Si je refuse, je suis libre. Mais je ne pourrai pas bénéficier des bienfaits de cette autorité-là à ce moment précis. Donc, quand j'entends les femmes me parler d'émancipation, de mondialisation, de civilisation, avec les sciences, je dis c'est des foutaises. Ça n'existe pas dans la Bible. Christ est l'époux de l'Église. L'Église que nous sommes. Je ne parle pas de l'Église édifice de pierre, mais je parle de l'Église, notre vie, la famille. Et la parole de Dieu allait jusqu'à dire, si quelqu'un ne peut pas gérer sa famille, il ne pourra pas gérer les brebis. Au moment où Moïse ne pouvait pas gérer, n'avait pas encore de famille pour gérer, Dieu l'a envoyé dans le désert chez son beau-père et il a d'abord dirigé les brebis. Quand il a appris à diriger les brebis, c'est là maintenant Dieu a vu que sa formation a commencé et tout ce qui regroupait sa formation, Dieu pouvait l'utiliser à quelque chose. Gérer les hommes, ce n'est pas facile. C'est vrai. Nous devons prendre nos responsabilités. Quand la femme se dit, moi j'ai été à l'école, moi là, je suis émancipée, je ne rentre pas sous l'autorité de mon mari, quand vous contestez cette autorité-là, c'est là où le foyer est brisé. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Toute femme doit rentrer sous l'autorité de cet homme-là. Et quand les enfants naissent, les deux doivent s'entendre, doivent se parler, doivent définir leur mode de communication pour éduquer leurs enfants. Quand on parle d'éducation, beaucoup pensent que ça n'insulte pas une grande personne, ne fait pas si c'est ça l'éducation. L'éducation n'est pas que ça. L'éducation va largement au-dessus de ce que nous pensons. Dans l'éducation, l'éducation détermine la façon de voir les choses de quelqu'un. L'éducation détermine la façon de faire des choses de quelqu'un. On sait quelle éducation telle personne a reçue. C'est comme par exemple, je vois une dame qui met sa petite chaînette au pied. Quelqu'un a dit, qui est resté en Occident une fois ici? Il dit, en Europe. Qui est allé au Sénégal une fois? Oui. Une chaînette au pied au Sénégal. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une question d'éducation. Quand quelqu'un porte une chaînette à Cotonou, c'est une traînée. Aucun homme ne voudra de ça là dans sa maison. À la limite, un homme prend ça comme un jouet. Et un jouet, on ne fait rien d'important avec. Rien de sérieux avec un jouet. On s'amuse avec un jouet et quand on finit, on jette par terre. C'est à cela qu'on vous identifie. Mais quand vous allez juste au Sénégal, même dans l'Afrique de l'Ouest ici, vous portez, personne ne prend le temps de vous regarder. Parce que c'est normal. Encore quand vous allez, par exemple, en France, aux États-Unis, personne ne vous dira rien. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un tatouer le corps, même pas des dessins, écrit son nom sur son bras, qu'est-ce qu'effet ça vous fait? Un gangster. Quand vous allez juste à côté au Togo, c'est leur façon de s'identifier. Quand les Kabyles perdent de voix, même au Nord Bénin, il paraît. Ah, ça, je ne savais pas. Par exemple, je ne sais pas. C'est une façon pour eux de dire, la femme villageoise, peut-être qui fait des commerces, ou bien celle qui amène sa servante quelque part. Si jamais elle se perd là, au moins on cherche. Comment tu t'appelles? N'y a non y? N'y a j'y non si vie. C'est quoi j'y non si vie là? Ta maman s'appelle comment? Il sait pas. Tanti ou bien tonton ou bien dada. Parce qu'ils ne savent pas. Mais quand vous avez ça chez eux, ça veut dire c'est son nom ça. C'est pour identifier quelqu'un. Et vous voyez, c'est ça l'éducation. L'éducation n'est pas seulement injurier quelqu'un, respecter quelqu'un. C'est ça dedans. Mais l'éducation va au-delà. L'éducation, que quand vous voyez par exemple, vous faites des droits sur la tête. Hein, quand on, quelqu'un vous regarde, il sait qui vous êtes. Vous n'avez même pas besoin de parler. Mais quand vous allez même en Afrique du Sud à côté, quelqu'un fait les droits, qui le regarde? Est-ce qu'il y a match? Ça ne dérange personne. Parce que c'est l'éducation en fait. Donc, ces deux personnes qui s'auto-éduquent maintenant, vous déterminez au sein de votre foyer votre mode de communication. Pour partager, vous faites une alliance pour partager le restant de votre vie ici sur la terre. Alors, mais comment arrivons-nous au couple? On ne peut pas arriver dans un couple si l'on ne se marie. Mais qu'est-ce que le mariage alors? Ou c'est quoi le mariage selon la Bible? Parce que nous ne sommes pas ici pour discuter des questions du monde comme le monde, mais nous sommes ici pour nous identifier à la parole de Dieu qui est tout pour nous, que nous devons suivre. Alors, c'est quoi le mariage selon vous?
Merci. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes de sexe différent, c'est-à-dire un homme et une femme, qui sont appelés à quitter leurs parents pour s'installer et pour rester un. Merci.
Qui dit mieux ou qui dit autre chose?
On peut définir le mariage comme un acte par lequel l'homme et la femme font un contrat entre eux. Voilà. C'est-à-dire l'homme quitte ses parents et la femme également quitte ses parents pour...
Pardon?
La femme quitte ses parents et l'homme également quitte ses parents pour qu'ils deviennent un. Comme le frère l'a dit. Merci beaucoup.
Qui dit autre chose? Qui dit mieux?
Moi, je pense que le mariage, selon la Bible, c'est la dot que l'homme donne à la femme pour l'épouser.
C'est quoi le mariage?
Je veux compléter. Le mariage, c'est entre quatre familles. Le mariage, avant tout, c'est entre quatre familles. Le père, la famille du père de la mariée et la famille maternelle de la mariée. La famille maternelle du marié et la famille maternelle du marié.
Qui dit autre chose?
Le mariage, c'est l'union spirituelle et physique entre deux personnes de sexe opposé.
Super. Alors, suivez mon regard et vous allez comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de foyers se forme et se déforme. Pourquoi il n'y a pas de paix au sein des familles? Nous allons prendre Genèse 24. C'est un peu long, mais vous allez faire le reste après. Qui dit ceci? C'est sous-titré Le mariage d'Isaac. N'est-ce pas? Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Et je saute quelques versets là. Et je tombe un peu plus loin. Quand le serviteur envoyé par Abraham a été conduit par l'Esprit de Dieu pour choisir la fille, le voici maintenant qui rentre dans la maison de la fille. Et il raconte, « Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Et il a expliqué tout, comment ça s'est déroulé. Et plus loin, il dit maintenant à la famille de la fille, « Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me retournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondit et dit, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. » Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Après, essayez de lire tout Genèse 24. Ce pourquoi aujourd'hui le monde ne peut pas avoir des familles solides à toute situation, à toute tentation. C'est que vous définissez le mariage à deux personnes. Vous identifiez le mariage à un contrat. Dans la vie, il n'y a que deux formes de contrat. À durée déterminée ou à durée indéterminée. Encore que celui qui cherche le contrat ne peut jamais s'imposer si ce contrat-là sera à durée déterminée ou indéterminée. C'est l'employeur qui choisit. Si cette durée-là doit être déterminée ou indéterminée, ça ne vient pas de vous. Quand vous identifiez le mariage à tout ce que nous avons entendu, oui, la dot, mais comment ça se passe? Le mode d'emploi de quelque chose défini, comment la chose est bien faite ou non. C'est pourquoi vous vous retrouvez dans des situations où la belle famille se retourne contre tout le monde. Et surtout, les femmes sont les premières à passer de maison en maison, de personne en personne, pour dire, ma belle-mère, là, elle est sorcière. Ma tante, là, elle ne m'aime pas. Le frère de mon mari, là, il est venu fréquenter chez moi. Ce que j'ai vécu. Et le monde a fini par se mentir lui-même en disant, si tu te maries, là, laisse la belle famille là où elle est. Sinon, tu auras de sérieux problèmes. C'est de là qu'est parti tous les problèmes du couple. Le mariage est une histoire de quatre familles. Au départ, si on peut voir les choses ainsi, pour devenir l'histoire de deux familles. C'est pourquoi je voulais dire, si les mamans ne parlaient pas, j'allais leur poser la question de savoir, vous là, pour vous là, c'est quoi? Vous avez ici la famille paternelle de la femme, la famille maternelle de la femme, la famille paternelle de l'homme et la famille maternelle de l'homme. Parce que la Bible nous dit que le mariage, ce n'est pas une union. Non, il y a entre deux personnes. Quelle union vous pouvez faire? Vous êtes qui pour unir quoi? Non. Le mariage, c'est une alliance. C'est au-delà de l'union. C'est une alliance. C'est-à-dire, il faut comprendre ce qu'est le mariage pour savoir comment y entrer. Si, c'est-à-dire, je suis allée une fois, c'était quand j'étais au cours primaire, dans la classe de, je crois que c'était au CE, et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Le maître du CE2 écrit à l'entrée de sa porte. Vous savez, souvent, les enseignants disent, va me chercher le cahier de test là-bas. Va chez le maître, demande-lui un bâton de craie. Et puis, on est en train de passer entre deux salles. Et à l'entrée de sa classe, le maître du CE2 écrit, qui entre comme un chien, sort comme un mouton. Qui entre comme un chien, sort comme un mouton. Et j'ai beau réfléchir, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Un jour, sincèrement, j'ai demandé au maître, mais qui entre comme un chien, sort comme un mouton, là, ça veut dire quoi? Il dit, le chien, quand il veut rentrer dans la maison de quelqu'un, le chien ne fait pas co co co. Le chien rentre. Mais le mouton sort de la chambre de quelqu'un ou bien de la cuisine de quelqu'un, comment? En courant. Pourquoi en courant? Voilà. Parce que certainement, il aurait dû renverser le bac de farine de quelqu'un, manger le maïs de quelqu'un, boum, boum. C'est-à-dire, quand tu rentres sans toquer, comme on doit y rentrer, boum, boum, tu sors comme un mouton. Donc, le mariage, quand on ne comprend pas que c'est une alliance, et on y entre comme un chien, on sort comme un mouton. Avec des pots cassés. Et parce que le mariage est une alliance, ça va au-delà de l'union, c'est une alliance. Ça devient quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'homme quittera, comme l'a dit quelqu'un, l'homme quittera son père et sa mère et... Donc ici, là, on ne parle plus de deux. Au départ, c'était deux. Ça devient un. Ici, là aussi, ça devient un. Maintenant, ça fait quoi? Pour les deux, ça devient deux. Famille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Mais, c'est l'union de quatre familles, je suis d'accord. Mais, est-ce que c'est l'homme qui va courir pour prendre et puis, bon, mettre ensemble ou bien dire à la famille, hé, monsieur mon père, je me marie demain. Hé, madame ma mère, je me marie demain. Et la femme aussi dit, hé, maman, c'est demain la dot. Hé, papa, c'est demain la dot. C'est comme ça se passe. Ça se passe comment alors? Selon ce que nous avons lu, ça se passe comment? Oui? Si vous n'êtes pas encore marié là, hein, écoutez bien. Enfant là, on dit, nous, 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 et donne le droit à Gao, nous les donnons bientôt. Et caquillez bien vos oreilles pour bien écouter. Quand vous pensez que le mariage c'est un jeu, il faut bien comprendre. Oui.
Merci beaucoup. Je pense que c'est les familles qui doivent choisir.
Quelle famille?
Je prends par exemple la famille du mari. C'est cette famille qui doit choisir l'épouse de leur enfant. Dans une famille qu'elle maîtrisait déjà. Maintenant, de nos jours, et ce n'est plus le cas, je pense qu'on devrait peut-être continuer avec ça. Quand on trouve une fille qui nous plaît, on doit inviter la fille à la maison et la fille doit faire connaissance avec notre famille et peut-être la famille peut aller faire des enquêtes dans l'autre famille et donner leur avis. Merci.
Qui dit autre chose ou qui dit mieux? C'est bon, non? C'est ça? Oui?
Merci. Dans la Bible, Isaac n'a jamais vu la fille qui est devenue sa femme. C'est après qu'on lui a donné la femme. Donc, la femme aussi, Rebecca en question, ne connaissait pas Isaac. On est allé faire les négociations pour lui, il est resté à la maison. Peut-être qu'il n'est même pas au courant. Et dans nos sociétés, depuis un certain temps, bon, peut-être maintenant, on a évolué, c'est que...
On a évolué vers où?
Bon, je ne sais pas. Peut-être vers ceux qui nous ont colonisés. C'est qu'on ne connaissait pas la femme. Moi, j'ai vu des cas comme ça où, contre son gré, elle est allée au marché ou bien elle est allée au bord du fleuve pour prendre de l'eau. On l'attrape. C'était déjà entendu. Et ces femmes-là restent dans leur foyer sans quitter. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vois la fille, elle me plaît physiquement. Je vois est-ce que elle répond aux critères que je me suis défini. Encore que, voilà. Donc, on commence par faire certaines choses. Les parents aussi comprennent. Ils comprennent et on finit par leur dire, c'est tel, hein. c'est tel et c'est comme ça les choses évoluent. Donc c'est aujourd'hui maintenant nous saurons est-ce que nous allons maintenant nous cacher comme Isaac et les parents iront nous chercher celle ou ceux qu'il nous faut. Merci. Ah,
déjà à qui est-ce? Donc cette interrogation est partout dans la salle. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Ah, attendez, on va finir d'abord. Oui.
Bon, moi je crois que suivant ce qui est dit dans la Bible, c'est que c'est pendant que l'homme dormait que Dieu a pris une partie de sa côte pour en faire une femme. Donc c'est l'homme qui va à la recherche de la côte qu'on lui a ôtée. Donc c'est l'homme qui fait le premier pas, donc qui informe sa famille de ce qu'il aime une fille. Là, sa famille maintenant mêle des démarches vis-à-vis de la belle famille pour les informer également. C'est comme ça que va être compris.
Ok. Ici.
J'aimerais d'abord dire que le monde n'est plus comme avant.
Oui.
Parce que tout d'abord avant, c'est les parents qui choisissaient la femme. Alors, mais maintenant, là, ça ne se passe plus comme ça.
Ça dit que ben, on quoi.
Voilà. C'est l'homme même qui va à la requête de son âme sœur.
La requête.
Voilà.
Oui.
C'est l'homme qui va chercher ce qui est conforme à lui.
Okay.
Et donc, l'homme et la femme, à travers l'étape de la fiançaille, c'est-à-dire, c'est une étape où l'homme et la femme apprennent à se connaître. Quand ils dépassent cette étape-là, ils vont maintenant, l'homme présente la femme à sa famille, la femme également présente l'homme à sa famille, et puis bon, les démarches commencent, et puis ça peut aboutir à ce qu'on appelle le mariage, selon moi.
Envoyez le micro derrière.
Oui, merci. Et en réalité, c'est les familles qui se marient.
Les familles?
Qui se marient.
Oui.
Parce que le mariage, c'est pour la vie. Et nos grands-grands-parents allaient même, avant de choisir la femme pour leurs enfants, allaient même faire des consultations pour voir si...
Consultation à l'hôpital?
Non, non, non. Ils allaient consulter le phare. Ils allaient consulter le phare pour voir si telle femme est vraiment habilitée. Est-ce que telle femme est destinée à notre enfant?
Okay.
C'est pour dire que on regardait la famille d'en face pour voir si, au-delà du simple mariage, qu'est-ce qui peut se passer demain? Parce qu'il faut préserver les enfants qui vont venir. Est-ce que dans cette famille, les gens sont sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça? Est-ce qu'ils sont respectueux? Ainsi de suite. Donc, ils posaient beaucoup de garde-fous pour protéger les nouveaux mariés. Mais aujourd'hui, la jeunesse est pressée. Et on choisit soi-même son compagnon. Et les gens se marient même sans informer leur famille, ils sont ensemble, et quand les problèmes commencent, on se rappelle maintenant qu'on appartient à une famille, et on court de gauche à droite, alors que le feu est déjà cassé. Merci.
Dans le cadre chrétien, le phare n'existe pas. Maintenant, en tant que chrétien ou chrétienne, si vous voulez vous marier, priez et demandez la voix du Seigneur. Et puis là, il va vous orienter sur ce que vous allez faire. Bon, c'est juste ce que je voudrais répliquer.
Et selon vous, cette orientation-là, c'est comment le Seigneur fait? Il descend?
Non, lui-même, il ne pourra pas descendre. Mais Dieu parle à chacun selon ce qu'il pouvait comprendre. Dieu ne parle pas à tout le monde de la même manière.
Quelles sont peut-être les quelques manières, par exemple, que Dieu utilise?
Dieu doit vous donner une conviction personnelle. Surtout quand la personne est déjà là, là il faut prier et chercher la voix du Seigneur. Il ne faut pas se marier parce que tous ses camarades se marient.
Oui, je comprends.
Voilà.
Mais quelques modes opératoires de Dieu. Vous avez dit par exemple une conviction. Il n'y a que la conviction?
Non, il y a la conviction pour tout. C'est-à-dire...
Oui, mais est-ce qu'il n'y a que la conviction? Il n'y a pas d'autres moyens aussi?
Oui, il y a plusieurs manières.
Comme...
Mais prière d'abord, premièrement.
Oui, mais
prière vous oriente maintenant. C'est-à-dire, la conviction dont je parle, ce n'est pas seulement être convaincu et d'une manière. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quoi. Il faut être soi-même très convaincu avant d'aller sur ce plan. Sinon, ce n'est pas seulement les parents. Il est vrai que les parents vont vous orienter, vous montrer le chemin, mais les parents ne vont pas vivre dans votre couple.
J'ai compris. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui?
Merci pour l'opportunité. Je voudrais déjà dire que est-ce que les mariages se font comme elles se faisaient avant? Nous sommes dans un contexte de...
Ah, vous avez déjà des questions au tableau?
Oui. Nous sommes dans un contexte, le contexte actuel ne permet pas forcément qu'on se marie. Je ne sais plus si les gens se marient vraiment de manière parfaite, qu'on ait 4 familles qui se marient réellement. Parce que ce n'est pas déjà facile de connaître Christ de la même manière. Nous, on s'est arraché à notre famille d'origine musulmane pour connaître Christ. Et donc, si je veux me marier, ce n'est pas forcément du point de vue... C'est-à-dire les religions des parents. Donc, oui. Ce serait vraiment difficile pour moi de mettre 4 familles ensemble avant de vivre mon bonheur. Franchement.
Exactement.
Et donc, je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui que dans le contexte actuel, je n'attendrai jamais de réunir 4 familles avant de me marier. En ce sens que je n'ai attendu personne pour connaître Christ. Et je crois que si Christ, l'Esprit Saint, me dirige, je peux... avec la crainte de Dieu, choisir une compagne et rallier au maximum ceux qui peuvent être avec moi. Et par la grâce de Dieu, les choses vont se conduire selon le Saint-Esprit. Merci.
Merci. Les différentes interventions me ramènent un peu derrière. On va s'arrêter là d'abord et on retourne en arrière. Quand on parle du mariage, vous allez aujourd'hui observer dans nos religions des gens qui vont vous dire, bon, j'ai prié, j'ai rêvé, je l'ai vu. Ça, on appelle ça des mariages cauchemardiques et machiavéliques. Ça, ce n'est pas mariage. Quelqu'un va me dire, oui, on a pris la femme des côtes de l'homme, mais ce n'était pas un mariage. Dans le jardin d'Éden, Dieu a d'abord créé l'homme-esprit. Et dans cet homme-esprit, il y avait l'homme et la femme. C'est l'homme grand H. Dieu n'a pas de sexe. Et c'est après, quand on parle, c'est du français là. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. On dit Dieu fit un corps à l'homme. Et quand il a fait le corps, il a mis l'esprit dedans. Le corps qu'il a formé, c'est un corps masculin. Et c'est après que Dieu a vu que Adam avait besoin d'un complément et prendre de ses côtes une côte pour fabriquer Adam. Ce n'était pas encore le mariage. Donc, quand vous me dites, bon, j'ai rêvé, j'ai vu, si quelqu'un vous dit, ça peut être par exemple, par songe, Dieu vous donne une révélation. Parce qu'il y a plusieurs manières de révélation. Dieu peut vous donner une révélation par songe, par conviction du Saint-Esprit. Dieu peut vous donner une révélation par sa propre parole, en vous donnant le réma de sa parole. Dieu peut vous donner une révélation, un flash. Dieu peut vous donner une révélation en vous parlant. Toute révélation, toute prophétie est faite pour édifier. Dieu ne détruit pas les siens. Sa nature est amour. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Ce que la Bible nous dit ici, ce qui a entraîné la chute de l'homme aujourd'hui qui commence les problèmes, c'est de dire, ah, monsieur Dieu, toi, tu es là-haut, on ne te voit pas, tu as parlé là, mais moi, monsieur, tant je fais comme je veux. Parce que c'est vous qui vous êtes créé entre-temps en tant qu'esprit, parce que c'est vous-même qui avez mis votre souffle de vie en vous, parce que c'est par vous-même que vous vivez. Et la Bible dit, personne ne peut se justifier par ses œuvres. On est entièrement d'accord, ou non? Personne ne peut se justifier par ses propres œuvres. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne fait pas de désordre. Il fait les choses normalement et parfois dans l'action de la perfection. Et c'est pourquoi Paul va nous dire, je suis en train de travailler pour atteindre encore la perfection. La perfection, ce n'est pas un acte automatique, mais ça se gagne dans le temps. Maintenant, ce que ma Bible me dit, c'est dans ma famille. Abraham est le père d'Isaac. Abraham est allé chercher une femme pour Isaac. Mais malheureusement, le diable nous ayant foutu le doigt dans l'œil, pour nous amener, quand on parle de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le cesse. La connaissance du bien et du mal, c'est de dire ce que Dieu dit là. C'est trop facile pour être vrai. C'est trop beau. C'est faux. Il faut réfléchir. Il faut voir que le Béarounoukoum, on avance vers la mondialisation, la civilisation, les sciences. Mais quand vous allez dans les sciences, vous avez les cœurs remplis de haine. Vous vivez les pires situations du monde. Parce qu'aucun homme ne peut avoir le meilleur de lui-même. Et c'est pourquoi Dieu est allé jusqu'à dire, je connais les projets que j'ai sur vous. Si moi, Dieu, je vous dis, faites-ci là, je connais les projets que j'ai sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur. Faites confiance en ma parole. C'est des projets de bonheur. Tout ce que moi, Dieu, je dis, si vous obéissez, si vous faites comme je dis, vous parviendrez toujours au bonheur. Et plus loin, la Bible va nous dire, Dieu ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Si vous avez du chagrin dans quelque chose, ce n'est pas Dieu qui vous l'a donné. Si votre emploi vous donne du chagrin, ce n'est pas Dieu. Si votre vie spirituelle vous donne du chagrin, ce n'est pas Dieu. Si votre foyer vous donne du chagrin, ce n'est pas Dieu. Si le mari que vous avez vous donne du chagrin, ce n'est pas Dieu. Dieu ne donne rien qui soit suivi de chagrin. Et il y a une différence entre chagrin et difficulté. Il ne faut pas confondre les deux choses. Difficulté, épreuve, c'est différent de chagrin. Chagrin là, ça dit que dans le chagrin, il y a amertume. Dans le chagrin, il y a difficulté. Dans le chagrin, il y a manque de joie. Dans le chagrin, il y a... c'est tout ce qu'il y a de pire là, qui peut rendre un homme malheureux. Je ne sais vraiment pas comment expliquer. Tout se retrouve dans le chagrin. Dieu ne fait pas ça. Parce que les hommes ne voulaient pas obéir à ce que Dieu a dit. Le monde a avancé. Ah non? Ah comment? On peut me choisir une femme? Ah non, mes parents ne peuvent pas? Ah bon, ah bon, ah bon, ah bon? Pour plusieurs raisons. Et nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais c'est parce que nous refusons de retourner à l'Éden. L'Éden qui est le commencement de la parole de Dieu. Nous identifier à la parole de Dieu. Tant que nous nous identifions à la parole de Dieu, c'est clair que nous aurons un mariage réussi. Alors, il y a trois étapes pour parvenir au mariage. Nous avons d'abord l'étape de la prise de contact, que moi j'appelle la connaissance, entre deux personnes qui choisissent peut-être comme vous, qui choisissent de se mettre ensemble. Il y a l'étape de la connaissance. Ce n'est pas la connaissance qu'on va faire chez les parents. Hein. Non. Prise de contact entre deux personnes. Il y a l'étape de l'amitié. Et il y a l'étape des fiançailles. Combien de personnes dans le monde aujourd'hui ont déjà respecté ça? Ah! Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça régit souvent tout. Et ça est mal fait. Aucune étape n'est à sauter. La connaissance, l'amitié, les fiançailles, aucune étape n'est à sauter. C'est obligatoire. Quand vous le faites mal, vous rentrez mal dans votre foyer comme un chien et vous sortez comme un mouton. Parce que le monde nous a déjà menti. Les gens commencent par faire comme ils veulent. Parce qu'il peut y avoir même des cas de différence de religion. Comme notre frère vient de dire, moi je suis musulman. J'ai eu la grâce, le Seigneur m'a amené au salut. Je l'ai reçu, je vis dans son royaume. C'est bon. Mais n'oubliez pas que la façon de faire les choses détermine si elles sont bien faites ou pas. La Bible nous dit par ailleurs, le seul commandement avec, dit bon, pas le seul commandement, le commandement selon ce que nous savons tous, qui est suivi de bénédiction, c'est honore ton père et ta mère et tu auras les jours heureux. Tout dépend de la forme des choses, pas le fond. Parce que vous avez eu la grâce, oui, le Seigneur vous a pris. Mais sachez que la Bible dit que si vous parvenez au salut et que vous ne faites rien pour que votre famille parvienne au salut, Dieu va vous demander des comptes d'élèves. C'est pas avant le mariage, je parle de façon générale. Quand vous avez reçu la grâce de passer au salut, vous devez travailler pour que votre famille entière vienne. Parce que par vous, au moins, ils sont sanctifiés. Vous devez œuvrer pour. C'est par là que vous devez commencer. Et en commençant par là, vos actes Vos comportements détermineront s'ils viendront ou pas. Et la Bible dit aux femmes que ce n'est pas notre comportement que nous allons gagner notre mari, semblable à la famille. Ce n'est pas votre comportement, n'est pas obligé de l'annoncer forcé. Si tu ne viens pas au Christ là, ça, c'est ton problème. Hein. Moi, je suis déjà sauvé. Hein. Ah, vous êtes en train de perdre le chemin. Hein. Ça ne veut rien dire. Par notre comportement, nous démontrons par A plus B que le meilleur chemin là, c'est ça. Être chrétien, ce n'est pas dire je suis chrétien, j'affirme ma foi. C'est être chrétien, assumer sa foi, suivre Jésus-Christ, mais de démontrer qui nous sommes. Moi, j'ai eu la grâce que ma mère soit, elle est d'ailleurs la première convertie de la famille. Je l'ai suivie. Mon père n'a jamais reçu le Seigneur. Et pendant que ma mère s'était lancée dans une doctrine, mon père n'a jamais voulu confesser Christ. Il a toujours dit jamais. Que lui, il est déjà trop intellectuel, des conneries comme ça là. Il ne peut pas se mettre dans les bancs d'escrocs. Mais, quand le Seigneur m'a accordé la grâce de le connaître sincèrement, parce que l'étape avant, je ne le connaissais pas. J'étais chrétienne. Mais je n'étais pas chrétienne née de nouveau. Je ne pouvais rien réclamer à Dieu. Parce que je n'avais pas fini de jouer ma partition. Quand je suis devenue une chrétienne à part entière, non, une chrétienne à part de ma famille, alors là, j'ai commencé par démontrer. Dans des situations les pires, les situations que je sais qu'il n'a jamais eu de solution, je dis, papa, je veux tester ce Dieu-là. Parce que le gars-là dont on me parle, là, je veux voir si les gens sont des escrocs. Laisse-moi cette situation gérer avec lui et je verrai s'il est bon. Et quand je retourne, je bombarde. Saint-Esprit, c'est toi qui es au défi. Ce n'est pas mon nom. Si tu laisses ça là, c'est que eux-là, ils ne vont jamais croire. Maintenant, mets le paquet. Tout son cœur par ça. Je prie proprement. Quand le truc finit, dit, une situation qui a duré plus de 25 ans dans ma maison, le Seigneur a fait. Ah, une autre situation. Je dis, bon, je ne suis pas encore trop convaincue. C'est-à-dire, je mets des astuces. Je sais bien, je suis plus que convaincue que lui. Je mets des astuces. Je parle son langage. Paul nous dit, quand je suis avec les païens, je me comporte comme eux afin d'en gagner quelques-uns. Je démontre que je suis chrétien. Un autre problème, même chose. Troisième problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand il a des problèmes qu'il ne peut plus, il dit, est-ce que tu n'as pas appelé ton Dieu là? Jusqu'à ce que je l'ai fait confesser Christ. Et parfois, Dieu me donne certaines révélations. Je lui dis, hé papa, Dieu m'a donné telle révélation. J'ai vu telle chose, ça va arriver. Et quand ça se passe, il dit, papa, non, je t'avais dit que Dieu m'a dit non. Il dit, c'est vrai, ma fille. Touche la main seulement. Il faut adorer Dieu là. Hein. Il ne faut pas laisser. Hein. Il ne faut jamais laisser. C'est-à-dire, il respecte ma foi. Je le lui démontre. Donc, du coup, quand vous venez de l'autre côté, quand vous êtes seul à venir de l'autre côté, c'est bon pour vous, vous pouvez assumer. Mais c'est très dangereux, ça sent mauvais pour votre femme. Pourquoi? Je saute rapidement avant de venir en arrière. Quand la famille, vous les mettez à l'écart. Vous épousez votre femme. Normalement, il n'y a aucun problème. Hein? Vous rentrez dans le foyer. Vous piquez une crise de colère un jour. Et vous dites, j'ai pris une décision. On se sépare. Elle ira voir qui? À la limite, elle ira même. Qui va lui répondre? Ah oh, c'est ça qu'il a fait? Je viendrai lui parler. Dévance-moi, je viens là-bas. Personne ne viendra. Parce que dans la famille, il y a toujours quelqu'un qui maîtrise votre mari. Il y a toujours quelqu'un qui parle et il écoute humainement. Parce que la vie chrétienne n'est pas faite seulement du spirituel. C'est faire aussi de la connaissance que nous avons humainement, des choses que nous devons apprendre humainement. Quand vous prenez Moïse, Moïse n'a pas simplement reçu l'enseignement du Saint-Esprit. Il est allé dans le désert chez son beau-père Jéthro. Il a appris comment on gère les hommes. Il a appris le management. C'est qu'il est allé à l'école de la vie, le savoir de la vie. Plus le savoir du Saint-Esprit, il est au complet. Parce que la Bible dit, vous êtes dans le monde. Oui, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire, le monde ne nous concerne pas. Nous sommes des dents. Mais nous ne devons pas nous comporter comme eux. Et c'est ça que Moïse est allé apprendre. Et c'est pourquoi vous allez insister, je ne suis pas en train d'injurier, mais à des pasteurs bonnets, à des pasteurs illettrés, qui n'ont jamais été à l'école, même leur connaissance de la Bible ne peut jamais être comme quelqu'un qui est allé à l'école. Parce que même c'est du français là. On vous dira par exemple que les femmes, par exemple, ne portent pas de boucles d'oreilles. Paul n'a jamais parlé comme ça. Il dit que si une femme doit prendre tout son temps pour ça, ne fait que ça, ne vivre que par ça. Si je dois aller à l'école dimanche là, si je n'ai pas encore cousu, bon, mon bazin là, j'ai déjà porté trois fois, hein, les gens vont me regarder. Ça là, là, quelqu'un a déjà regardé. Hein. Ça là, j'ai déjà porté ça plusieurs fois, je ne peux plus. Ah, je n'ai plus rien, je ne peux pas aller à la messe. Paul dit, si tu as atteint ce niveau, mieux vaut pour toi t'en débarrasser pour toujours. Et aller. Il n'a jamais dit ne portez pas. Hein? Arrêtons. Ceux qui n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas eu le savoir complet de la vie. Ils ne sont pas allés à l'école de la vie. Et ils ont reçu maintenant même l'école spirituelle. Ils ne se sont pas laissés enseigner par le Saint-Esprit. Ils font du bushing biblique. Verset temps, verset 6. Combien de gens qui font du bushing biblique sont capables de pratiquer la parole de Dieu dans leur vie et de réels témoins devant le peuple? C'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et c'est dommage. Et parce que tout leader qui est devant est l'exemple que tous les autres derrière regardent. Et c'est en ce sens que certains me disent, bon, la jeunesse de mon église développe la rébellion. Je dis non. Toi-même, tu en es pour quelque chose. Amène-toi sur la table d'opération de la parole de Dieu. La parole va t'opérer. Et tu vas voir là où ta tête est trop grosse, là, la parole va couper un peu. Là où tu as les oreilles larges, la parole coupe un peu. Ainsi de suite. Et tu deviens un homme bien et parfait. Donc, on ne peut pas se marier parce qu'on a rêvé, on a vu quelqu'un. Mais parce que le diable nous a foutu l'œil dans les yeux. Et il y a quelques racas. Et puis aujourd'hui, les gens disent le monde est dépassé. Hein? Bon, on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus. Encore que tout ce que nous choisissons, nous faisons des erreurs. Le reste, c'est que toutes les familles qui résistent, qui subsistent, résistent au reste. Du coup, c'est la femme qui dit, je supporte tout, c'est pas grave, elle est là, mais elle ne vit pas heureux. Moi, je vis le bonheur à 100% dans mon couple. Et c'est pour moi la preuve que c'est Dieu qui me l'a donné. Il n'y a aucun chagrin. J'ai jamais été fidèle à mon mari, et par la grâce du Saint-Esprit, je ne le serai jamais. Jusqu'à la fin, il ne le sera jamais. Et je serai là toujours en train d'intercéder pour lui. Parce que si ça arrive, ce n'est pas seulement moi. Mais c'est pour le peuple, c'est pour vous. Ça va. C'est-à-dire, fléchir votre foi. Et les conséquences seront très lourdes. Ne serait-ce que pour vous, avant d'être pour moi. Et pour la crainte de Dieu, je prie que cela ne soit jamais ainsi, il ne sera jamais ainsi. Je vis le bonheur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de tension. Quand on vit bonheur, là, il n'y a pas de tension. C'est-à-dire, il peut y avoir un malentendu. Mais c'est un sonate, là, on n'en fait pas cas. On sort le problème, on met là. On commence pas à jouer comme un petit ballon. Je fais des passes, il me fait des passes. J'explique, il m'explique. Ah ben non, c'est comme ça. Et puis on s'entend, et puis... Si on n'a pas une réponse à un problème, on dit, bon, allons chercher dans la Bible, qu'est-ce que la Bible en dit? Et quand on trouve ce que la Bible en dit, c'est devenu pour nous un jeu. Il dit, ah ben tu avais raison, hein, la Bible a dit si. Parfois, il dit, ah c'est toi qui as raison, regarde, la Bible a dit si, effectivement, je n'avais pas compris. Et ça devient pour nous une expérience, et puis c'est fini. On n'en fait pas cas. Donc, quand vous choisissez, vous voyez, ça vous plaît. Parce que vous-même, vous avez vos désirs. Jésus-Christ est venu nous affranchir. Ce n'est pas la mondialisation qui nous fait changer. Non, nous pensons que c'est la mondialisation. Les têtes qu'on fait, Jésus-Christ est venu nous affranchir. Nous sommes libres. Nous ne pouvons plus rester sous aucune servitude. Mais ça veut dire, Jésus a dit, je suis venu pas pour abolir la loi, mais pour la parfaire. Alors là, tu as du coup, parce que Christ est en toi, et maintenant tu as la nature divine en toi, tu peux maintenant savoir par la conviction du Saint-Esprit dont parlait la sœur, savoir ce qui est bon pour toi. Tu fais le choix. Mais quand tu fais le choix, amène ça sur le temple du Seigneur. Voilà le choix que j'ai fait, Seigneur. Est-ce que ça répond à tes normes, à ta volonté, à ta parole? Et Dieu commence par vous parler. Mais en ce moment, beaucoup de jeunes ne savent pas passer au doute cartésien leur analyse. Le doute cartésien, c'est quoi? C'est analyser quelque chose, enlever tout doute, enlever tout préjugé pour analyser quelque chose. Passer au doute. C'est-à-dire qu'on nous a tellement enseigné dans nos églises qu'on ne doit pas raisonner avec Dieu. Mais non! Nous devons comprendre, c'est pourquoi que nous sommes des chrétiens tarés. Il y a des gens qui vous annoncent Jésus, vous n'avez aucune envie d'aller à Jésus, si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui vous convainc. Parce que quand vous regardez leur vie, par A plus B, ça ne vous inspire pas. On se dit, si c'est être chrétien, devenir ça là, pardon, avancez, je viens après.
Mais nous sommes des témoins de Christ. Nous devons démontrer la nature de Christ en nous. Mais oui. Mais oui. Alors là, quand vous avez Christ en vous, vous trouvez c'est beau, vous passez. Vous enlevez tout préjugé. Mais aujourd'hui, on se dit, parce que là, là, hein, vraiment, moi, je ne peux plus laisser l'enseignement, j'ai choisi. Dieu te dit, hé, regarde ça. Tu dis non. Peut-être Dieu te parle, tu ne veux pas écouter. À une semaine du mariage, Dieu permet que madame, peut-être des boutons sur le corps, quelque chose l'empêche, la robe n'est pas finie. On dit, monsieur Dieu, non, sinon il faut aller louer une autre robe. Dieu nous parle chaque fois, mais nous refusons de l'écouter. Quand nous refusons de l'écouter maintenant, nous faisons. Après, on dit que ce que Dieu a uni là, aucun homme ne peut séparer. Foutaise. Ce que Dieu a uni, quand Dieu dépose son cachet, son sort sur quelque chose, qui ou quoi dans ce monde, quelle situation dans le monde d'aujourd'hui peut arriver à ôter le sort de Dieu, le cachet de Dieu sur quelque chose? Sinon, il n'est pas Dieu. Il n'est pas notre petit frère là. Il n'est pas notre copain, hein? Il n'est pas non plus les serviteurs de Dieu que nous sommes, hein? Non. C'est le Dieu souverain là. Ah oui. Celui qui fait de la terre son marche-pied. Qu'est-ce qui peut enlever le cachet de Dieu? Si vous vous mariez devant les hommes et non devant Dieu, et après on dit que c'est devant les hommes et devant Dieu. Devant les hommes, oui. Mais vous n'avez pas écouté Dieu. Si vous parvenez là, c'est que Dieu n'était pas dedans. Moi, j'ai déjà fait cette erreur-là pendant 15 ans. Et je tenais. Je voulais tout faire pour sauver ce foyer-là. C'est tellement que Dieu riait de moi. Il dit, par tes œuvres, tu ne peux rien. Et j'ai fini par comprendre que quand le sceau de Dieu est sur quelque chose, Dieu ne peut pas unir quelque chose et ça va passer encore du vent. C'est impossible. Alors quand nous retournons comme ça, vous trouvez la prise de contact, vous apportez devant Dieu. Prêtez oreille à Dieu. Écoutez. Si vous ne savez pas comment écouter Dieu, demandez à Dieu des signes. Parce que lui-même, il a dit de nous demander des signes. Et si quelque chose est approuvé par Dieu, il dit au moins 2 à 3 témoignages de la même chose. Et c'est ainsi dans la parole de Dieu. Quand vous voyez un verset de Dieu, là, lisez bien, vous allez voir au moins 2 à 3 témoignages. Dans d'autres livres, qui disent la même chose. Ça peut ne pas être dans le même français, mais c'est la même chose, c'est la même idée. C'est clair. C'est comme ça que Dieu parle. Demandez des signes à Dieu. Et sachez que Dieu peut parfois même aller jusqu'à vous parler, c'est-à-dire vous donner tout pour que vous puissiez voir que ça là c'est mauvais. Mes frères, demandez alors au Saint-Esprit de vous aider à choisir la part de Dieu pour éviter tout problème, c'est mieux pour vous. Quand vous faites bien cette étape-là, où il n'y a pas encore les parents, parce que la nature divine est en vous et que vous pouvez choisir vous-même, alors vous arrivez là. L'amitié, là, c'est quoi? Très souvent, quand on arrive à l'étape là, pour ceux qui, au moins, passent par là, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chacun parle à sa mère. Personne ne veut aller vers papa. Parce que papa va dire, ah, moi, je te paye les coups. Je te paye le campus, tu m'amènes copine, quoi. Hein? C'est nous, les mamans, nous protégeons souvent. L'homme parle à sa mère. La fille parle à sa mère. Mais combien de filles, aujourd'hui, parlent encore à leur mère? Les cas d'avortement enregistrés, les cas de viol de débauche, les cas, les pires cas qui peuvent arriver, qui puissent exister sur la jeune fille d'aujourd'hui, arrivent par le manque de ce lien-là. On estime que je ne peux pas parler à ma mère. Je connais une fille qui a avorté, père à son âme qui aujourd'hui ne vit plus. Mais avant qu'elle ne rende l'âme, avant qu'elle ne meure, elle a choisi la mère de sa camarade pour lui parler. Sa propre mère vivante, vive dans la même maison. Mais elle est allée parler à la mère de sa copine. Ne connaissant pas la moralité de cette dernière. Et beaucoup d'autres choses, j'en passe. Parce que les filles, là, quand vous voulez les prendre, toute femme est à 90% sous l'influence de sa mère. Quand vous voyez une femme, elle est façon là, Sachez que sa propre maman qui l'a accouchée est comme ça, point barre. Si elle n'est pas restée à côté de sa maman, sachez que sa tutrice, sachez qu'elle est restée, c'est une tante, oh, c'est la femme d'un oncle, oh, c'est un parent, oh, elle est sous l'influence de sa, cette femme-là, à 90% des cas. Si la vie de leur mère ne vous plaise pas, que leur vie ne vous plaise pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que le mariage ne s'enseigne pas à l'école. Ça se transmet de mère en fille. Et c'est cela que mon père a l'habitude de dire. Amade gbovio moro kwa sinon nous on est nobu. Ça dit l'agneau ne mange que l'herbe qu'il a vu brouter sa mère. C'est clair. Par exemple, il y a des choses dans mon foyer que moi je ne peux jamais faire, c'est horrible. Mais quand je dis ça par exemple à côté de certaines personnes, c'est normal. Moi, je ne peux jamais acheter à Kassa en feuille et déposer ça sur la table pour mon mari, quelles que soient les circonstances où on va, je ne peux pas. Jamais. Mais à des endroits donnés, quand maman est peut-être vendeuse dehors, elle n'allume plus le feu, elle confond foyer à faire. Elle n'allume plus le feu à la maison. Hein. Papa doit venir s'asseoir sur la table comme les clients. Et puis on sait, oh, papa mange. Quand la fille voit ça là, elle rentre dans votre ménage, vous voulez lui demander quoi? Et maintenant que vous avez déjà renvoyé toute la famille qui devait vous aider dans ce processus, qui va vous répondre? Anadou tina pa mouyo kaka. Anadou picha kaka. Anadou sardine ou kaka. Anadou eleron hototon di. Anadou les belles grippes à vie. Mais c'est ça. Donc pendant là, quand vous parlez à vos mères, les mamans ne commencent pas. Papa, envoie-le. Je vais voir de qui il s'agit. Maman, regarde. Hey. Moi, j'ai déjà vu un type qui courait après une fille. La fille, bien dépigmentée, c'est-à-dire avec des phares de zombies, là, ici, c'est-à-dire tout, c'est vraiment la débauche. Jupette, c'est-à-dire, je ne peux pas expliquer, je ne peux pas décrire. Et il va chez la maman. La maman était là, assise, elle dit, mais je t'ai amené ma fiancée, celle que je veux épouser. La maman dit, ah, tanti Mikabo, Midi, tiens, tanti. Et elle était assise, dit, oui, hé, bien, mais il ne faut pas lui servir de l'eau, non. Son fils entendait, dit, c'est ta bien à toi, hein. Elle est partie, elle dit, hé, ça, là, que tu veux. Tanti Mikabo, amène-le. Mais lui n'a pas compris. Au début, dit non, ma maman ne l'aime pas. Pourquoi elle va me dire ça? Ah, jamais. Moi, j'ai fait mon choix. Quand elle a fini par voir cette fille entourée de Libanais en train de faire de je ne sais quoi, il a fini par comprendre. J'ai dit, mais c'est trop tard pour toi, hein, tu dois rester. Moi, je vais t'aider à rester. Elle peut changer. Ironie du sort. Parce que là, elle ouvre ses yeux de mère, de surveillance, pour regarder. Hein? À votre ouais, comme moi, mon enfant. Si c'est à corriger, c'est dans une autre étape. Mais au moins, les parents sont au courant de ça. Mais là, n'intervient pas le sexe. On est pressé. Quand le mariage n'est bâti que sur l'émotion, le je t'aime, le je t'aime, l'amour, comme je vous dis là, mon cœur fait frigidaire. Couche-toi la jaquette, sinon je ne peux pas savoir que tu es une vraie femme. Et même les chrétiens disent aujourd'hui, oh, comment je vais acheter de la cassa emballée, un paille emballé, je dois savoir, non? Oh, après tout, on veut vivre ensemble, non? Ah, fine. Fine. Oui? Hein? Le monde a évolué, nous sommes bien. Et les hommes sont pressés. Ça ne veut rien dire. Même la Bible n'a pas dit ça. Non. Ce que vous ne savez pas, quand vous couchez avec une femme, vous faites un. Ça s'identifie à ça. La Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, le voile c'est. Avant là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça dit que ici là, vous avez le pavis, vous avez le temple, vous avez les lieux saints, vous avez les lieux très très saints. Qui entre dans les lieux très très saints? Les souverains sacrificateurs. c'est pas des sacrificateurs simples. Et la Bible dit même que c'est tellement lieu très saint où il y a la présence de Dieu. C'est pas aujourd'hui où Christ est venu accomplir tout et puis nous-mêmes là, nous portons Christ, nous sommes lâches de l'alliance. Hein. En ce moment-là, personne n'a jamais appelé Dieu Abba Père. Ici là, il est Dieu éternel des armées. Il est souverain. Et tout le monde est serviteur. Et nos Tangmayanwan, et nos Messia. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce par Jésus de dire Abba Père. D'avoir l'opportunité de demander pardon quand nous péchons. Alors que les autres ont dit mort égale, K.O.U. Vous savez ce que ça s'appelle? K.O.U. Ou péché égale mort. C'est le lien. On dit qu'on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur parce que personne d'autre ne peut aller là-bas. Tu peux être Lévi, tu peux être l'enfant du souverain sacrificateur, tu peux être un sacrificateur à Djedouanakou. C'est-à-dire, quand l'arche allait dans la maison de David, c'est-à-dire, l'arche voulait tomber. On dit que la présence de Dieu voulait tomber. Quelqu'un veut dire, bon, je rattrape. Il n'a même pas encore touché. Il est mort. Dieu a choisi ceux qui doivent le servir. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre. C'est le côté souverain de Dieu, là. On ne blague pas avec. Hein. C'est son côté Jésus, là, que vous pouvez briser, frageler, amener à la croix. C'est son côté amour, ça. Passer par là, c'est bon. Son côté esprit saint, là. On ne blague pas avec. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors là, on dit, ils vont là-bas. Si jamais ils meurent là-bas, personne ne peut entrer pour sortir le corps. C'est pourquoi on met les fils. Si jamais ils ne reviennent pas avant le temps convenu, le temps passe, on tire sur la ficelle. On amène le corps, personne ne va là-bas. Prenez la femme. Ça là, c'est, on peut l'identifier alors à quoi? Pas son corps, son accoutrement. Ça, on peut l'identifier à quoi? Ça, on peut l'identifier à quoi? C'est vraiment, c'était là-bas. C'est le lieu très, très saint. Qui entre dans le lieu très, très saint, entre en alliance avec Dieu, en contact direct avec Dieu. Mais ce que les hommes ne savent pas aujourd'hui, surtout la jeunesse aujourd'hui, là, écoutez-moi bien, caquillez vos oreilles et puis écoutez-moi. C'est à vous que je parle maintenant. Homme comme femme. Quand vous êtes pressé et puis vous couchez avec tout le monde là, vous faites un avec les gens, ça s'appelle la communion. Pourquoi vous respectez la communion du corps de Jésus? La communion au corps de Jésus, pourquoi vous respectez ça? C'est tellement saint. Là, c'est un lieu très, très saint. Quand vous y entrez, vous faites maintenant un avec la personne, il n'y a plus rien à faire. Mais quand maintenant vous allez là-bas, on te dit que la fille, elle est adepte de dents, donc dents-ci. On te dit que la fille, elle est adepte de mamie, donc mamie-ci. La fille est passée chez tous les féticheurs, même le féticheur est passé par là. Même le petit garçon du coin, là, il a déjà balayé. Ça dit que même le vendeur du journal, là, il a déjà ciré. Quand vous faites un, elle vous fait le transfert de tous ces démons, de tout son état. Vous blaguez. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous ouvre votre entendement spirituel. Pour que vous compreniez. Parce que quand quelqu'un comprend ça, là, il ne peut pas s'amuser avec sa vie. Mais c'est ça. Il va fuir vraiment. Et cette femme-là vous fait le transfert de tous ces démons. Et toutes les malédictions qui sont aussi en vous, là. Où on a, vous, a, vous, reste, vous n'avez pas respecté vos parents, plein de choses. On dit, tu lui transfères spirituellement. Mais c'est ça. Et vous partagez à pas égal vos démons mutuellement. Et c'est en cela que vous allez voir. Les hommes les plus matures comprennent. On dit, bon, quand je sortais avec la fille là, et de chance, ça, t'as ton coup, t'as dit, quel t'a coucou, quand tu as fait ça, c'est là que t'as transféré, tes affaires ne marcheront plus. Bon, depuis que je connais la fille là, vraiment, je ne trouvais plus d'emploi, je ne sais pas, quelque chose se passe dans ma vie, je suis devenue bizarre, je suis devenue mâchée. C'est pas mâchée, c'est transfert de compétences diaboliques et machiavéliques. C'est ça. Donc là, c'est sûr là. Ce n'est pas ce que nous pensons. Hein. En 5 minutes, en 2 minutes, tu as bousillé ta vie. Tu as vendu ta vie au diable. Et tout ça là est sur toi. Tu es enchaîné. Maintenant, imagine que Jacqueline soit passée. Jacqueline est peut-être la fille du mois de janvier. Pierrette, février. Et puis Catherine, mars. Et puis avril, là, tu as fait poisson d'avril à Geneviève. Mais, c'est-à-dire, c'est toi quoi? C'est toi le boss quoi? Moi, je tisse tout ce qui bouge. Imagine que quand tu fais ça, regarde le niveau que tu atteins. La chaîne que tu as déjà au cou. Et maintenant, imagine tout ça là avec les chaînes et les transferts de démons. T'as vu égal à quoi? On vient aussi des hommes. Oui, c'est lui le maître. Ah, ce gars-là, il est choquant. C'est ça que vous dites, non? Je connais. Parce que, en ce moment-là, votre vie est liée à ça. Regardez bien spirituellement ce que ça veut dire. C'est ça. Hoé Menoubo, tu as raison. C'est vraiment Hoé. Oui, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire de votre vie. Quand une fille est vraiment, oh, c'est la tante là, hein, aujourd'hui vois-tu arriver. Quand par exemple, ça là, déjà c'est un péché. Et soit dit en passant, tu deviens sireur de derrière. Ça devient un pi et puis un didi. Pour ne pas dire pédé. Imagine. Pourquoi Dieu a exterminé Sodome et Gomorre, pensez-vous? Par quoi? La sodomie n'est même pas un acte à pratiquer dans son cours si vous respectez vos épouses. Elle dit, Dieu merci, c'est que il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Si quelqu'un vous fait sa fille, vous sodomise, giflez-le. Elle dit, même pas fille. Je dirais femme qui entre dans un ménage, parce que ne dites pas après que c'est moi qui vous ai envoyé faire quelque chose. Giflez-le. Quel que soit ce qui se passe, giflez-le. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quelque chose est à la mode. Il y a des hommes très nantis, très riches, à leur âge, n'ont jamais de femme. Et c'est ça que nos jeunes filles aiment. Oh, le gars là, il va m'acheter moto, il est tout. Il m'a loué un appartement. On leur loue des appartements qu'elles n'ont jamais rêvé avoir dans leur vie. On leur achète tout. Et le gars, parfois, me dit, je ne veux pas coucher avec le reste là. C'est-à-dire, il te donne à manger dans Dojo Gandhi. Le jour où il couche avec toi une seule fois, par ce contact spirituel, ta vie est déjà ôtée. Et quelques temps après, c'est à la mode actuellement à Cotonou. On dit, c'est jeune, Yegekou, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a vendu sa vie, non? Elle a vendu sa vie, oui ou non? À cause de combien de billets de 10 000? Je ne sais pas. À cause de ces billets de 10 000, c'est pour faire quoi? Acheter jupette, jongli. Rien de bon. Parce que cet argent ne fait rien de bon. C'est à cause de ce péché de ce domi-là que Sodome et Gomorrhe étaient exterminés. Que le Seigneur touche quelqu'un ce soir. Et quelqu'un va me dire, je suis gay. Homme efféminé. Tu vois des hommes qui sont comme ça, en train de faire cuire, comme les serpents là. Vous devez prier pour eux. Parce qu'ils ne s'appartiennent pas spirituellement. Que la parole de Dieu délivre quelqu'un ce soir. D'autres vont me dire, je suis lesbienne. Et on pense que c'est à la mode. Et il y a même un site, on dit, je suis lesbienne et je suis fière. Un site sur Facebook, lesbienne et fière. Et il y en a même une, soit dit en passant, qui m'écrit. J'ai prié pour elle. Elle me suitait à tout moment, j'ai prié pour elle. Je dis, c'est que l'erreur que tu as faite, c'est de chercher à être amie avec moi sur Facebook. Et même me démontrer que tu l'es. C'est fini, c'est l'erreur. Tu es délivré au nom de Jésus. Où que tu sois. La puissance qui transforme va dans ta vie. Que cette puissance-là soit libérée ici ce soir pour délivrer des vies, pour délivrer des cœurs, pour circoncire, briser cet esprit qui agit dans la vie des gens. Alors, c'est quand vous faites ça là, ça arrive à un certain niveau, au moment où on voit que bon, ça commence pas à être sérieux. L'enfant là, est-ce qu'on ne va pas essayer de corriger un peu si, est-ce qu'on ne va pas essayer de voir ça, est-ce que dis à ta maman, ou bien la maman dit, ah, vous là, quand vous sortez de l'école, pourquoi vous ne venez pas tôt? Ah non, 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 étudiez d'abord. Vous forme à un certain niveau ici. Quand vous venez ici là, avant de venir ici, il y a une période de transition qu'on appelle la connaissance. Cette connaissance là, c'est quand maman maintenant se lève, ce n'est pas à l'enfant d'aller parler à son père. C'est maman qui se lève. Et souvent, les mamans, nous camouflons les choses pour dire à papa, mais en réalité, savoir comment dire. Notre enfant est en train de grandir. Il a atteint l'âge de la puberté. Il doit faire telle chose. Si nous ne l'aidons pas, par Est-ce que les parents aussi fuient leur responsabilité? Ne veulent pas suivre les enfants, ne veulent pas les écouter. Arrêtez de réprimander vos filles et vos garçons en âge de puberté. C'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Très dangereux. C'est la période où nous devons tout faire pour être leurs amis. Les mettre en confiance. Les écouter. Ne pas faire du sexe en ce moment un sujet tabou. Quel tabou? Tu es en train de préparer la partie, les sous-ordinateurs, site de PD, tout. Tu l'envoies à l'école. Toi, tu es au veillé de prière. Tu laisses ton enfant à la maison. Il a des livres pornographiques cachés sous son lit. Il a des CD qu'il achète, des CD pornographiques sont à 500 bon, les jeunes. Dites-moi la vérité. C'est à 300. Ah, même les portables, ça circule dessus. Et quand du coup l'enfant voit ça, si c'est déjà tabou, l'enfant est tenté par le fait d'aller faire ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Nous devons accompagner nos enfants. Il y aura un autre séminaire pour les accompagner. Et à ce moment, c'est là où on explique à papa. Ah mais c'est trop dur. C'est un débat entre les deux parents jusqu'à ce que la maman amène le père à comprendre de son cœur de mère ce qui est bon pour l'enfant. Alors le père dit, hé, toi viens ici. Ta mère m'a dit que tu as une fille. Il ne faut pas dire non. Dis oui. Oui. Et le papa aussi commence à jouer son rôle de responsabilité. Parce que les mamans doivent être plus proches de leurs garçons et les papas plus proches de leurs filles. Pourquoi? Parce que les mariages dans lesquels vos femmes ont de sérieux problèmes, c'est souvent qu'il n'y a pas une relation établie entre son père et lui. L'absence du père, le manque d'autorité du père fait que les enfants recherchent ça en leur mari. Pour une femme, Dieu n'a jamais dit à la femme, quitte ton père. On a dit que l'homme, petit H, quitte son père et s'attache à sa femme. À la fille qu'il a prise, à la fille qu'il va éduquer, à la fille qu'il va restaurer, à la fille à qui il apprend tout. Parce que la femme est émotive. En ce moment-là, quand le papa s'approche de sa fille, les hommes, là, c'est comme ça nous faisons. Hein. C'est comme ça se passe. L'enfant comprend plus vite parce que c'est le sexe auquel elle est attirée. Mais attention, il y a des papas qui sont animés parfois d'esprit démoniaque et à cette étape-là, commence pas à coucher les enfants. C'est dommage, c'est aussi une maladie, c'est le diable qui fait ça. Oui, il y a des papas qui couchent avec leurs enfants. C'est dommage. Et qui sont violés. J'en connais une qui aujourd'hui est surmenée parce qu'elle a été violée, battue par son père pendant des années, jusqu'à la mort de sa mère. Parce que sa mère avait divorcé. Et de chaque côté, vous amenez l'enfant à ça. Et quand vous finissez, ça, c'est la première étape de connaissance. Le père et la mère peuvent aller faire. Ce n'est pas la grande famille. Parce que ça, là, si c'est mal fait, l'autre famille aussi regarde. Ou bien c'est pendant ici que la maman va dire, eh, mais ce n'est pas les mêmes religions. Hein. Est-ce que... Parce que quand on dit religion, vous allez voir les musulmans, quand ils prennent toujours des femmes de leur religion, c'est parce que les saintes prières pour un musulman, c'est normal, c'est clair. J'ai reçu quelqu'un dans mes thérapies conjugales pour régler un problème. Et j'étais là, elle m'explique tout. Mon mari est un musulman. On a 4 enfants, on vit ensemble depuis 10 ans. Mais mon mari n'a plus d'emploi. Mais depuis ce temps, il n'a plus jamais cherché. Il est à la maison, il ne fait rien, il ne participe à rien. Je fais tout, je me bats, je vais au marché, je vends, je ramène à la maison, je paye l'école. Elle dit, elle est devenue l'homme. Elle parlait, je dis, vous êtes... Je suis chrétienne. Mes parents aussi sont des chrétiens. J'ai dit, ok. Elle m'a parlé, quand elle a fini, j'ai dit, ça vous étonne? Parce que mes parents, quand ils viennent, je leur dis, voulez-vous la vérité? Ou bien voulez-vous que je vous caresse dans le sens du poil? Si c'est dans le sens du poil, ce n'est pas le bon endroit. Je vais vous dire la vérité. Mais sachez que la vérité opère. Si vous n'êtes pas d'accord pour dire la vérité, si vous n'êtes pas d'accord pour avoir le maximum de confiance en moi, pour me dire les faits tels quels, je vais vous faire un mauvais diagnostic et vous allez dire après que je ne connais rien. Ce n'est pas moi qui ne connais rien, c'est vous qui ne connaissez rien. Parce que vous devez faire confiance, c'est comme un médecin, la relation entre un médecin. Vous devez dire tout ce qui est. Et, je ne donne jamais de nom, elle me dit, Oui, voilà, voilà, voilà. Quand la fille, je dis, ça vous étonne. Vous êtes d'où? Elle m'a dit, d'où elle est. Je dis, ok. Pourquoi ça vous étonne? Regardez dans le marché d'Antokpa aujourd'hui. Toutes les grandes dames du marché d'Antokpa, surtout les musulmanes, les Yoruba qui sont sous l'immeuble d'Antokpa là. Vous voyez qu'à 17h, des voitures viennent les prendre, leurs époux, non? Oui. Eh? Oui, et je vois hein, des gens, que des maris qui leur font tout. Je dis, ok, c'est là où tu te trompes. Parce que chez le Yoruba, le jour où le gars te fait la dot, il a fini avec toi. C'est toi qui le gardes jusqu'à sa mort. Ces femmes qui sont à Tokpa vendent, trouvent de l'argent, achètent une voiture. C'est-à-dire, leurs maris sont nourris, logés, vêtis, véhiculés. Ce n'est pas leur voiture, hein. C'est ce que vous pensez. Nourris, logés, vêtus, véhiculés. C'est la femme qui leur fait tout. Et eux, là, ils portent des goumettes, golou. Va les voir devant les mosquées. À 17h, ils disent, bon, ils s'en vont. Sur le fond des jeux de cartes. Au moins, il y a un musulman repenti ici qui va me dire la vérité. J'ai menti. Mais lui ne trouve pas que c'est anormal. Je dis, quand tu vas te lever pour aller dans ta belle famille, ils vont te regarder. Si tu ne sais pas faire, ils vont trouver une autre femme à leur enfant. Il dit, ah, comment vous avez fait? C'est comme ça. Ma belle-mère, là, ne m'aime pas. Je dis, très bien. Une fille de la maison de Lévi a pris pour femme. Un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. La même conviction. Et vous voyez les choses comme cela doit être. Même culture. Même foi. Parce que même quand on parle de culture, si vous acceptez Jésus, j'accepte Jésus. Nous sommes enfants du même père. Nous avons la même culture, non? Ou bien, la nouvelle Jérusalem, c'est pour nous, non? Est-ce qu'il y a des différences encore entre nous? Même si tu sois par exemple d'Abobé, que je sois de Porto Novo, il n'y a plus ça là. Parce qu'en Christ, nous sommes... C'est pourquoi vous choisissez comme vous voulez. On dit non, hein? Paul a dit, c'est une femme si tu sauveras ton homme, c'est une mari si c'est toi qui sauveras. Non, c'est vrai que je dis, Dieu peut utiliser d'autres moyens aussi pour nous parler. Mais nous aussi, nous devons écouter la parole de Dieu pour savoir ce que nous avons fait. Quand nous venons ici et on fait la connaissance, on entre dans l'étape de fiançailles. Étape de fiançailles ne veut pas dire couche-toi non plus. À cette étape, la jeune fille future mariée est maintenant familier à la famille de l'homme. Peut ouvrir le portail. Maman, bonjour. Je suis venue rester un peu avec vous. Et maman dit, hé, aujourd'hui, encore qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. J'ai des habits. Oui, maman est en train de laver des habits. La jeune fille vient. Bonjour, maman. Roland, on fait bien. Maman va dire, et merci, maman. Et ça va. J'ai menti. La jeune fille est là à midi. Maman est en train de préparer. Elle va à la cuisine. Oh, ben je te dis, le feuilleton d'hier, là, ça, c'est les étudiantes. Le feuilleton d'hier, là, c'était vraiment le master. Hey, maman, future belle-mère, vous riez avec eux. Hein? Massacre. Et à un moment donné où je l'ai fait, parce que je n'avais pas Christ en moi, c'était devenu. Après une rupture. Je suis dans une famille refondée par Christ. Je nettoie le carreau. Je leur prépare à manger. Je dis, elle dit, non. Elle s'est dit, mais elle m'a même surnommée Maïmouna, super. Parce qu'elle aurait une domestique qui s'appelait Maïmouna, qui est trop propre, qui fait les choses. Elle dit, toi là, tu es super Maïmouna. Et c'est devenu un surnom pour moi. Parce que j'ai été bien éduquée chez ma mère. Ma mère a 6 garçons et 2 filles. Et je suis la Benjamin. Donc, il y a une bonne vie, tu es ainsi, et ni si bro, moi. Et dans ma maison, on sait qu'on ne peut pas oser. Ma fille sait qu'elle ne peut même pas oser faire ça. Aïe! Aïe! Ah non! Et c'est aujourd'hui la jeunesse dit, moi là, jamais, maman m'a fait des remarques. Ta mère, elle m'a fait des remarques. Moi, je ne viens plus chez toi. Hein. Et tu es encore derrière. C'est toi, mémé, elle va frapper. Oui! C'est toi-même, elle va bien frapper. Et puis, quand ça atteint un certain niveau, ou bien quand la famille n'est pas là, par exemple, parce qu'il y a des moments où la famille se trouve au village, les jeunes sont là, étudiants, en train de travailler, en train de se chercher, mais quand même, les parents sont au courant des étapes d'une façon ou d'une autre, et puis la jeune fille vient, tu ne peux même pas passer la nuit là-bas. Pourquoi tu l'as passé la nuit là-bas? Et nous, c'est l'endroit de Jakakpaoya. Tu veux le tenter? Dans un lieu public, on se voit. C'est ma mère qui me dit que moi je voulais me marier. Et ils ont fait ce témoignage ici parce que quand ils ont fait leur secrétaire de mariage, on a demandé, c'était ici qu'ils ont fait la fête. Et ma mère dit, mais mes grands frères me mettent la bassine sur la tête pour aller puiser l'eau. Et tous ils sont derrière moi. Et le monsieur vient me rencontrer, ils sont derrière. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, dit, hein? Et que parfois mon père dit, mais c'est quoi? C'est toute la famille. C'est toute la famille que j'ai invitée. Est-ce que tu peux faire quelque chose dans cette condition-là? C'est pour les aider. C'est pour les aider. Et à l'étape-là, la belle-mère doit savoir que, connaissant son fils, ce que son fils aime, on doit se rapprocher d'elle. Voir comment elle prépare, parce que son fils a mangé sa nourriture jusqu'à grandir. Donc, elle connaît son fils. C'est pendant qu'elle est à la cuisine, tu es là, mémé, et tu es en train de faire le feu. Tu as déjà reçu un coup. Et quand tu finis là, tu vas voir le grand frère de Roland. Parce que c'est les hommes que je connais. Tu vas voir le grand frère de Roland. Ah, Fofo, bonjour. On a déjà fait le repas. Maman a fait. Vous allez manger. Ma soeur, est-ce que tu sais que Roland là, quand il s'énerve là, il gifle les gens. Attention. Ça dit, non, mais ça c'est ridicule, mais c'est réel. Ça, ça va te dire peut-être, oh, tu connais son point faible. Oh, mon loulou est nos faoué. Ça dit, c'est un exemple. Quand c'est comme ça, oh, il est fâché, il est rentré, non? T'as un peu de temps, mais le Dieu qui a souhaité à l'orcagan. C'est fini, non? Est-ce qu'il peut encore gifler quelqu'un? C'est pas fini. Où est le problème? Et c'est là que vous apprenez à les connaître. Et quand l'homme va là-bas, ça dit que, vous savez, avant de venir à Christ, j'étais très colérique. Très colérique et très vindicative. Ça dit que quand je pique une crise de colère, je n'arrive même pas à me contenir. C'est les esprits mauvais qui font ça. J'agis brutalement et sauvagement. Et ma mère, bon, avec l'âge, elle est déjà vieille aujourd'hui, ne sachant pas ce que Christ a fait de ma vie aujourd'hui. Et ce n'est plus la Hermione d'entre-temps, mais c'est une nouvelle Hermione qui habite la nouvelle Jérusalem en Christ. Ah oui! Je suis devenue une nouvelle personne et je ne me connais pas la main de Dieu. Et un jour, ma maman souvent dit à mon mari, tu sais, j'ai remarqué telle chose, hein. Faut pas lui dire, je te dis, règle ça avec moi. Lui parle. Et un jour, mon mari dit, tu sais que mémé te crée. Je dis, comment ma mère va me craindre? Il dit, oui, elle connaît ta colère. Hein? Et lui sait comment m'a doué parce que ma mère est allée jusqu'à lui dire, quand elle se fâche là, il faut lui chanter. C'est quelle chanson elle a dit maintenant? J'ai oublié. Mademoiselle, attendez, vous emportez mon cœur. Et c'est vrai que c'est une chanson que j'aimais beaucoup. Et justement, il dit, oh, tchou, la chanson que ma mère m'a dit, quelle chanson? Quelle chanson? Oh, tu t'es oublié, il était obligé de me dire, oh, elle m'a dit que quand tu te fâches là, il faut te chanter. Elle dit, ah, mademoiselle. Il a dit, ah. Donc, ma mère l'aide à me connaître. Sa mère m'aide à le connaître. Et quand je rentre dans les bonnes grâces de sa mère, elle dit la petite histoire, monsieur, vous avez déjà rencontré ça ici. Un jour, on était tellement débordés par les appels téléphoniques, on a pris une standardiste. Mais on a oublié de lui dire. Et la standardiste a pris fonction. On était dans son bureau, on travaillait, on parlait d'autres choses. Et le téléphone est fait de telle sorte que quand ça sonne deux fois, ça balance sur le call center. C'est son propre téléphone, mais la ligne va de l'autre côté parce qu'elle est disponible ici et les autres décrochent. Et ma belle m'a appelé. Deux fois, il n'a pas décroché, c'est allé sur l'appel. La fille a dit, Global Service, bonjour. Et Edgar. Elle dit, non, le DG, tout est ok. Elle raccroche. J'étais en train de lui parler quand mon téléphone a sonné aussitôt. Ah, j'ai vu mémé. Allô, mémé? Hein? Fais ta voix de pas, surtout si téléphone on y en dénoncé. C'est séance tenante. Et j'ai dit, hein? Mais n'est pas profumé, on y en dénoncé. Ah, mémé, on a pris sans adresse. Donc c'est que je suis rentrée dans ces bonnes grâces. Son fils ne peut plus faire des choses qu'elle va cacher. Mais c'est ça. Mais nous ne connaissons pas l'importance de ces étapes. On dit non, on entend Gleta nous, mais Gleta nous, on est carré, vieux, bon, vieux, sous. Gleta nous, on est divito. Bon, on va mourir. Elle n'est pas propre. Moi, je ne peux pas manger des gens qui n'ont jamais mangé chez leur belle-mère. Mais ils ont fait 10 ans de mariage. Ah, non, 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 non. Mes enfants ne peuvent pas aller chez elle. Il n'y a pas la propriété. Chut. Mais un jour viendra, tu vas chercher les gens en plein jour avec lampe. Personne. Et l'homme va partir. C'est l'important, ça. Mais attention, pour aller rapidement sur la fin de nos mamans. Belle-mère, voici que nous avons bien passé ces étapes. Mais pendant ces étapes, la fille doit être bien éduquée aussi pour comprendre, supporter certaines choses. Pour supporter certaines choses et comprendre certaines choses et vivre comme on a tous nos filles. Il y a même des pièges. Les mamans vont vous tendre parfois des pièges pour voir qui vous êtes. Mais vous tombez dans les pièges rapidement, surtout les femmes là, les filles là, rapidement, c'est vite fait. En même temps, et là ils disent à leur fils, attention. Mais quand ces étapes là sont bien passées, et puis vous recevez le permis d'entrer dans le foyer, et vous êtes là. Belle-mère, que viens-tu chercher dans la famille, dans le foyer, dans le couple, dans la vie de tes enfants? Point d'interrogation. Pour leur pourrir la vie. Il y a ce qu'on appelle le phénomène belle-mère Jérocole. Ça existe. Mais femme, attention. Fille, attention. Il y a que vous avez Christ en vous. Vous savez comment faire les choses. C'est toujours différent. Soit dit en passant, je reçois une dame qui a des problèmes. Et j'en gère beaucoup. Hein. Et le Seigneur m'aide. Priez aussi beaucoup pour moi. Que je sois une source de bénédiction pour les foyers. Soit dit en passant, une dame vient me voir. Ma belle-mère là, elle est de Porto Novo. Belle-mère Thé. Ah! Souci, ouais, mon. N'est mon fou. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En pleurs, arrogance et tout à la fois. C'est quoi? Calme-toi, parle. Ma belle, mon mari avait épousé une fille avant. Elle a fait un enfant, elle est partie. Maintenant, il m'a vu. Maintenant qu'il est devenu douanier. Maman vient là construire une maison. Maman ne veut pas que je reste dans la maison. Elle veut venir profiter de la maison. Et vous savez ce que cette belle-mère a fait? Elle vient, elle s'assoit, elle domine sa belle-fille. C'est-à-dire, elle devient propriétaire, c'est peu. Un monstre pour traumatiser la fille comme ça. Non, ce que je dis là, ce n'est pas la blague. La fille pleure, elle est dans. C'est-à-dire, quand sa sonnerie sonne, ça devient pour elle un traumatisme. Mais quand la belle-mère est en train de dominer sa belle-fille comme ça, elle entend le klaxon de la voiture de son fils. Pii, elle vient s'asseoir par terre, devant le salon. Son enfant vient. Ah, chérie, c'est ma mère que tu as laissée. Comment? Elle ne sait même plus quoi dire. Le mari dit, ça ne peut pas se passer ici. Et c'était devenu vraiment une tension partagée. Son mari ne la comprend pas. Sa belle-mère est un problème. Que faut-il faire? Sa mère ne vit plus. Elle a fini de parler. Elle dit, c'est tout. Elle a dit, oui. C'est tout. Tu es chrétienne? Non. Je te fais confesser Jésus. Elle a confessé. Je lui ai parlé de Christ et tout. Je dis, pour régler ton problème, c'est trop simple. Il y a des stratégies. Ta belle-mère vient. Elle est en train de te dominer. Demande au Saint-Esprit de te donner la fermeté. Dans le calme, la sérénité, le respect. Mais tu t'imposes. Parce que la Bible nous dit, un père ou une mère qui vient rester dans le foyer de son enfant est au rang des enfants de la maison et des serviteurs, des étrangers de la maison. Hein? Vous avez bien compris, non? Une maman belle-mère et puis beau-père qui vient siéger dans la maison, qui reste là. Vous êtes au rang des étrangers, des enfants de la maison. Vous n'avez pas droit à la parole là-bas. C'est l'ordre des choses. Vous êtes sous l'autorité de votre enfant. Point bas. Je dis qu'elle va venir. Fermement, gentiment. Maman, mi maganda, mami, mi joroenedo. Et sois ferme. Ne te laisse plus aller. Mais dans la politesse et dans le respect, dans la crainte de Dieu. Et tu demandes au Saint-Esprit de te donner la conviction. Tu le fais. Ne dis rien. Quand elle entend le klaxon de son enfant, elle vient s'asseoir par terre dehors. Cours, assois-toi à côté d'elle. Maman, mito, hold on, arrive. Bien sûr. C'est-à-dire, même elle ne pourra même plus agir. Quand l'enfant rentre, c'est quoi? Oh, tu redonnes pour maman pour mettre au rôle de vie. Même s'il faut couche-toi sur sa cuisse. Gang no play gang. Quand c'est comme ça, une, deux, trois fois, ton mari va réagir. Quand ton mari va réagir, commencez pas à insulter ton mari. Va dire, maman, je dis, ah, et mon autre, mon ami, il met ton pot t'aider, jamais. Et quand il fait ça en même temps, genou, toi, devant ta belle-mère. Et c'est m'a dit, maman, il j'allais, il disait que Emmanuel me doit aider. Ah oui. Ah ben oui, c'est la sagesse de Dieu. Quand tu t'as dit, tu la supplies sincèrement. Et tu commences par la combler de tout. De tout. C'est quoi elle veut? Un peu de ci, un peu de ça. Maman, il m'a dit, j'ai fille. Parce que si elle voit l'échantillon de ce qu'il attend, elle ne peut pas venir là. On ne va pas les jurer. Non. Lui manquer de respect, non. La Bible dit de les honorer. Quand tu vas faire ça, après tu rentres, tu dis à ton mari, mais tu as un peu exagéré. Tu n'avais pas besoin. Et si c'était ma propre, tu n'as pas besoin de les jurer. Tu vas nous pourrir la vie. Rappelle-toi que la parole de Dieu a dit, si toi tu es touché par ça, c'est que moi-même je suis touché. Et la paix va revenir. Aujourd'hui, elle est à l'aise. Maman, il vit. Et maman, j'ai dit, elle sort pas au vide et dit, donc, il y a sous gay. C'est fini. Ici, dans clos. Mais c'est ça. On n'a pas besoin. On doit les honorer. Quand ils viennent, c'est-à-dire, ne les laissez pas regarder la télévision par la fenêtre. Et bien, nous, quand on met du train, mettez-la à l'aise. Mes belles-mères, beau-père, vous devez savoir que c'est mon père qui avait l'habitude de dire ça. Il dit, je ne passerai jamais la nuit dans la maison d'un enfant, à moins que ce soit à l'étranger que j'aille là-bas. Mais si, même s'il va à l'étranger, il ne reste jamais dans la maison de ses filles, de sa seule fille qui est là-bas, mais c'est chez les garçons. Mais il dit, attention, je ne serai pas un problème pour vous. Il dit, si je vais dans la maison de mon enfant, garçon, que je le vois en train de laver les sous-vêtements de sa femme, mon gars, c'est bon, c'est fini, ça passe. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font et puis ils restent en paix là. Quand je vois ma fille, si je vais chez ma fille, elle est en train d'essuyer les chaussures de son mari avec sa langue. Ma chérie, ça s'arrête là. Si c'est comme ça ils sont, c'est fini. Mais si je pars, je ne reviendrai plus jamais. Je dis, ah, comment elle dit oui? Parce que c'est des choses comme ça me disposent. Mais ce n'est pas moi qui vais parler. Et vous allez me dire que pourquoi je suis venue parler dans votre affaire? Chérez-vous. Définissez votre mode de communication. Il y a de belles mères qui viennent avec leur bruit là. Ah, moi je dois manger, je dois dormir. Quand belle-mère, beau-père, surtout c'est les beaux-pères là encore, c'est au chaud, les belles-mères là. Quand vous venez, vous voulez dormir dans le lit conjugal de vos enfants. C'est anormal, oh. Vous n'avez jamais vu? Des belles-mères qui viennent dire, les enfants, même si j'ai dit, viens dormir dans le lit conjugal, moi je ne peux pas dire ça. Parce que mon lit conjugal, c'est mon lit conjugal là. On va préparer un endroit bien pour mémé. Parce que c'est elle qui a porté dans son sein cet homme qui fait mon bonheur. Oui, vous avez entièrement raison. Mais laissez-moi vous dire, quand on dit un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi, j'ai dit homme égale à maturité égale à responsabilité. Les hommes ne sont pas assis. À peine ils sont accroupis, mettent l'enfant d'autrui sur la cuisse. Roulade. C'est ça ce qu'on appelle la situation de roulade. Oui, c'est la situation de roulade. L'homme doit s'occuper de sa femme de la tête jusqu'aux pieds. Subvenir aux besoins. Si tu n'es pas encore préparé, attends, repousse. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble. Un mariage, ça se prépare. Ce n'est pas brusque. Un mariage, là, ce n'est pas. C'est-à-dire, après la dot, là, ce n'est pas la robe blanche. Non, un mariage, ce n'est pas la carte d'invité. J'ai déjà reçu des gens que j'ai accompagnés. C'est pourquoi quand les gens m'appellent pour dire, nous, je veux que vous soyez nos parrains de mariage. Je dis, hé, viens t'asseoir. Voilà comment nous, on définit ça. Et on vous suit. On vous amène. Hey, je ne veux pas avoir des têtards spirituels et puis dire que je suis leur marraine. Je refuse. Je veux des coups bien faits. Je ne veux pas gérer des situations. Suivi. J'ai dit, mais tu veux te marier? Il a dit oui. Et tu gagnes combien? Il m'a dit, je gagne 120 000. Quel autre revenu tu as? 25 000. Tu as d'autres revenus? Non. 145 000. Mettons un peu de logique, ne soyons pas bêtes. Verset 45 000. Tu dis, je suppose que quelqu'un te donne quelque chose, tout ça là. Ça te fait 150 000. Sors-moi la dîme. Ça te fait 15 000. 15 000 de ça. Il dit 135 000. Je dis, il te faut à peu près combien pour t'habiller le mois? Il dit, ça dit, c'est pas tous les mois, hein, mais vraiment, c'est beaucoup, hein? Il dit, essaye de m'estimer un peu. Il dit, bon, si je dois parler, bon, m'acheter deux chemises, un pantalon, un peu de chaussures, un peu pour aller au bureau, je utilise parfois jusqu'à 50 000. Je fais 135 000 moins 50 000, reste combien? Je dis, tu habites où? Je suis à Calabi. Calabi, là, tu es dans une chambre salon? Oui. Quel 15 000? Hein? Moins 25 000, les gars, combien? Tu as une moto? Oui. Tu parles de l'essence pour combien? Quand on a déchiffré jusqu'à la fin, il est en déficit. Donc, il se cherche. Il y a d'autres, un autre cas, lui, il était chez les parents. Donc, il dit encore, c'est bon, on a bien déchiffré. Je dis, maintenant, si tu veux te marier, là, quand tu finis de prendre la fille des gens, là, avant de venir, je ne parle pas encore de la dot, tu l'amènes où? Oh, hein? Ça, là, là, la Bible était dit. Il dit, bon, on va louer l'appartement. Avance combien? Ils ont demandé minimum 10 mois. Caution électricité, au Ben-Hakbrel, au Tokoyobi. Je dis, ok. Tu vas trouver ça où? Non, je me suis déjà préparé pour ça, je l'ai déjà dans un compte. Je dis, super. La dot là, calcule-moi ça, ça fait combien? Ça fait au moins 600 000, tout ce qu'on va faire, tout ça là. Je dis, ok. Tu as déjà les 600 000? Il dit, non. Comme c'est charge partagée entre la famille, machin, tout ça là, on va faire. Je dis, très bien. Quand tu as l'argent là, puis tu te maries, quand vous rentrez dans le foyer, les 10 mois là, à peine vous consommez 3. Pendant les 3 que vous consommez, vous êtes en lune de miel. Vous n'êtes même pas à la maison. Encore que si c'est que vous avez beaucoup d'argent, ça sinon lui devient des gens là, c'est 2 jours. Ou bien, appartement meublé porte nouveau, ils sont déjà là. Quand vous revenez, vous consommez les 3. Le mois qui suit, tu gagnes combien? Enlève ça. Tu n'es plus seul. Elle va s'habiller. Yao yo, non, son moins. Aïe. Et puis, yao yo, avouez non toi. Tu dois donner. Pas ta moins non de ton. Ce qu'on lui avait donné avant, là, elle va coûter. Tu vas sortir l'argent pour faire ça. Peut-être dans l'intervalle de 3 mois, elle est. Il faut l'amener à l'hôpital. Les soins commencent. C'est pour ça qu'après, on fait un mariage, mais après 1 an, l'amour là n'existe même plus. Et t'es qu'à dormir de mes temps. Et il y a des écarts de langage. La frustration. Tout le monde a les nerfs tendus. On dit, tu n'étais pas comme ça avant, hein? Quand on a fait notre mariage là, les premiers mois là, les premières années là, c'était bon, hein. Mais quand les choses ne marchent plus, c'est parce que tu n'as pas regardé loin. Même Dieu, avant de donner à Abraham le nom de père d'une nation, d'une multitude, Dieu lui a dit, sors Abraham, regarde devant toi. Aussi loin que tu verras, je te le donnerai en héritage. Ça veut dire la vision. Quelle vision avais-tu? Couche-toi, je me couche dessus, c'est terminé. L'amour est terminé, non? C'est que le mariage est déjà régi en 1 heure. Si votre mariage est basé sur ça, en 1 heure, là, vous avez fini le mariage. Et les vies sont bousillées. Les gens sont malheureux. La frustration commence. Quand l'enfant naît, problème. On va dans les églises, mon mari a des problèmes. Le mari devient inefficace au bureau. Son patron le remercie. À son plein ou à soutien. Tu vas dire, ah, alors le démon lui a coupé ma vie, mais au cause du bon mari, c'est les chrétiens qui disent ça. Au cause du bon mari. Tu étais préparé. Moi, je dis que comme en Indonésie ou bien je ne sais où, le mariage, on devait passer un permis d'entrer dans un foyer. Si vous ne passez pas ce permis-là, à la première intercession, embuscade, accident de Minablo, c'est ça. Comprenez, jeunesse, que c'est votre vie qui en dépend. Mais quand vous prenez femme, que vous allez mettre dans votre famille paternelle, vous n'êtes pas mari de votre femme. Et toi, Marie, soi-disant Marie, et toi, femme, vous êtes au même rang que les enfants de maison. Il n'y a pas d'autorité, c'est maman qui domine là, c'est papa qui domine là, c'est papa qui prend des décisions. Si tu n'es pas d'accord, tu... Et après, dit, quand je suis rentrée là, ma belle-mère a déjà parlé, ma maman a incité ma femme, les femmes disent, chérie, tu sais, ta maman là. Et puis les hommes aussi, idiots. Hein? Et maman, je n'aime pas les choses comme ça, hein? Il faut respecter mon épouse. Adou Bessou. Qui t'a obligé à rester là? C'est là que tu dois rester. Et c'est souvent dans ces cas que vous entendez les gens appeler leur maman dada parce qu'il ne peut pas y avoir deux chefs dans une même maison. On est obligé d'effacer l'identité de maman et de donner cette identité-là à la grand-maman. Grand-maman, Ouzou, maman. C'est ça. Parce que vous êtes là. Nous faisons mal les choses. Et on dit mondialisation, émancipation. Revenons au plan de Dieu. Le mariage selon la Bible. Mes femmes, peut-être tu as bien passé tout ça là. Même si ta belle famille, ils sont financièrement heureux, ils ont tout ce qu'il faut. Si tu n'amènes pas ton mari, ça dit qu'un bon homme, une bonne femme là, c'est à travers ce que son mari fait dans, son, dans sa famille. C'est ça. Quand tu ne dis pas à ton mari, elle n'a pas de mémé, elle n'a pas de pépé. Nous devons faire quelque chose pour eux, pour avoir la bénédiction parentale sur nous. On en a besoin des deux côtés. Parce que les hommes, quand ils se marient, ils ont tendance à ne regarder que leur belle famille. Ils ne dépensent que là-bas, ils oublient leur famille. J'ai menti, les hommes. La vérité, là, c'est, ça fait pas, c'est pas comme de l'eau sucrée. Hein. C'est un peu amer. Mais c'est pas grave, buvez comme ça. N'y va qu'il soit, mais c'est amer. C'est pourquoi on la prend visage serré. Donc buvez ça comme ça. Vous oubliez vos parents. Et ils n'ont Dieu que pour la belle famille. Mais c'est la femme qui doit apprendre à dire elle n'a pas de mémé. Mémé soit sorcière, oh. Mémé soit tiers au collier, oh. Mémé soit machin, machin. Oh. Fais ce que toi tu dois faire. Et quand tu finis de faire ça, laisse-la faire ce qu'elle veut. La Bible dit toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Mémé peut dire, vous allez rire. Vous avez fait ce que vous devez faire. Vous lui avez donné l'honneur qu'il mérite. Mais c'est ça. À la fin de l'année, moi, je dis à mon époux, tant qu'il est là, quand elles sont venues donner la dot, ce n'était pas en réalité les tantes qui sont venues me donner la dot. Hein. C'est les mémés de la maison. C'est les tantes de ma belle-mère en réalité. Ce n'est pas mes tantes. Quel honneur. C'est-à-dire, vous n'imaginez pas, c'est-à-dire, quel honneur. Ces mémés-là sont venues, elles ont tenu. Elles étaient toutes vieilles, mais elles ont tenu à faire. Personne ne fera pour nous. On minable, nous, Azima, on tient, ouais. Azima, saumon. Mais c'est ça. Quand je l'ai connu, à la fin d'une année, c'est quoi, c'était la première année ou la deuxième année? J'ai dit, les tantes là sont. On va où? J'ai besoin de 300 000 francs que tu vas me donner. J'ai pris les 300 000. Je rentre au marché. J'achète mes sacs de riz. J'achète mes pailles, t'achètes. J'achète mon carton de fée. C'est-à-dire, des choses que j'ai achetées. J'ai amené. C'est tel oncle ça. C'est tel oncle ça. C'est tel oncle ça. C'est tel tante ça. J'ai acheté mes plastiques là. J'ai fait des coffrets bien emballés avec de nœuds et tchatcho de. Nous perdons mes tobobloniers. Il n'y a pas de tchatcho. Non. C'est-à-dire, la jeunesse n'a plus ça aujourd'hui. Et on fait, j'ai fait mon nœud. Je dis maintenant, chérie, trouve-moi un jour. C'est obligé, gâte-toi. Un samedi, on met ça dans la voiture. Mais ma belle-mère ne savait pas. Elle avait reçu ça pas. On entend tu dire. Tant que tu en es là, mais. Il dit, violon, à son anonyme, il t'a mis mon point. Des bénédictions à ne point finir. Le jour où ces mémés-là ont appris qu'on veut faire la dot, il y a des soins, il y a des. Quelle fierté! Mais c'est ça. Qu'est-ce que la jeunesse fait aujourd'hui? Ah, moi, je vais acheter l'or. Il t'achète dernier cri. Je dois acheter. Hé, hey, Flisco, comment vous appelez ça? Hey, collection. Ah, non, non, non. Moi, tu m'as pas acheté ça. Puis tu as dit que tu viens amener l'argent au village. Ah, d'accord, c'est bon. Mon mari, là, il ne me fait plus rien. La part de la belle famille. À des moments donnés, belle fille. Ah, mémé, je vais vous dire bonjour. Ça va? Vous l'appelez. vous passez les voir, vous amenez les enfants chez eux. Ils veulent aussi voir leur petit-fils. Et en allant là, n'allez pas comme femme émancipée française. D'accord, tout est sur ça va loin, on soit à coup, si vous voulez. D'accord, si nous sommes là, nous sommes là. Oh, vous êtes là, vous êtes là. 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 Quel homme va voir ça et commencer par regarder les clignotants de Yadema et quoi? Quand les femmes disent non, qu'est-ce que soit ce que tu fais, l'homme regarde toujours dehors. S'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est autre chose. Mais même s'il n'a pas la crainte de Dieu, que tu fais, aucun homme ne peut prendre une aiguille pour se l'enfoncer dans les yeux. Ils savent, ils reconnaissent la valeur. Quand vous faites ça, c'est-à-dire, même s'il est tenté parfois, mais celle-là, avec tout ce qu'elle me fait, je ne peux pas trouver ailleurs. Ils savent. Ou bien vous savez, non? Ou bien, vous savez. Et l'épanouissement des enfants en dépend. La relation avec la belle famille, avec les tantes. Quand vous avez des tantes et que vous êtes mariés, il y a des choses dans lesquelles votre bouche-là ne doit pas s'ouvrir, femme. Vos bouches là, apprenez à les fermer un peu. Hein? Vos minds là, fermez ça. Une tante, même si elle est comme mon enfant, elle vient, il y a un problème de famille. Foufou et doué, c'est dos, si oué. Et le mec, comme il sort, envoyez ci, envoyez ça. Quittez là-bas. Vous savez comment nous on vit à Cotonou. Hein? Et vous venez toujours demander l'argent. Hein? Tante, t'es dans mon. L'enfant se lève. Tante, quand je suis parti là-bas. C'est ça, Fofo a dit. Et sa femme a dit si. Pourquoi vous vous plaignez du fait qu'après ça devient problème? Quand ta bouche, où est ton problème? Ta belle-mère est venue en train de parler d'une situation à ton mari. Tu viens t'asseoir, femme, pantinaga. Elle est au salon en train de regarder la télévision, elle ne bouge pas. Si ça vous dérange, bougez. Mais non! Aïe! Hein? Ce que je dis là, je blague. Non, là, dites-moi là, Abby, maman, les filles. Il y a des hommes, ils amènent leurs femmes chez leur mère. Il n'y a pas un peu de répit pour les parents au peu. Monsieur, elle avait sa clé. Il ne bouge pas, il a mis le bureau. Non. Excusez-les. S'ils disent, ouais, tu viens. On ne t'appelle pas, moi, tu veux savoir. Si tu fais réellement avec ton mari, ce qui est sûr, il doit faut filer. Il y a d'autres tout aimé. Mais ne les indispose pas. C'est-à-dire, nous nous mettons dans des rangs où ils sont braqués contre nous et commence la guerre. Une guerre que nous-mêmes, nous ne pouvons pas terminer. On se couche là où on ne veut pas se réveiller. Ce qu'elle commence, elle ne peut pas terminer. C'est Ivoirien qui a dit ça. Ce que femme commence là, elle ne peut pas terminer. C'est des petites choses qui ne veulent rien dire, mais qui régissent tout. Un mariage heureux. C'est, le thème est tellement large qu'on ne peut même pas finir. Je vais m'arrêter là pour voir si rapidement je peux répondre aux questions. Quelqu'un dit, comment entretenir une relation avec sa belle-mère, avec sa belle-famille, de sorte à éviter les conflits entre cette dernière et la belle-fille? C'est ça. C'est vous qui devez savoir comment vous comporter. Et ramenez tout à la Bible. Quand vous avez l'éducation, vous recevez l'éducation, vous devez aussi connaître la parole de Dieu pour savoir quoi appliquer où. Moi, je connais des gens. Donc, au début, c'était comme un test. Que la belle-mère a douché, lavé. Ça dit que la parole qui sortait là, elle était poignante. A douché proprement et correctement. Mais n'a pas répondu. Mais le lendemain, elle a dit, ah, appelez sa belle-mère pour dire, maman, sorbé d'or. Mais coup d'or, ressort. Alors qu'elle n'a rien dit, qui pouvait lui faire plaisir? Fils et croné. Et la belle-mère finit par comprendre. C'est quelle femme son enfant est allé chercher. Vous devez faire les choses, c'est-à-dire leur faire du bien selon la Bible, les honorer, les respecter comme vos propres parents et éviter aussi beaucoup d'apporter les problèmes de la famille à votre belle-mère. Ce n'est pas parce que vous êtes proche, ce n'est pas parce que vous les honorez selon la Bible que votre foyer sera ouvert à ces derniers. Pourquoi? Est-ce que vous avez jamais vu à l'état civil le mariage que les propres parents des différents des conjoints là, les différents parents des conjoints, soient par exemple parrains. Ça ne vous a pas étonné? Moi, ça m'a étonné. Je finis par comprendre. Et mon père a été maire célébrant pendant des années. Et il me dit, mais un jour, dans mon foyer, je suis très proche de mon père. Très proche. Et je lui dis presque tout avant. Mon ménage, tout. Mais un jour, je suis allée parler à mon père, j'avais une situation. Il est resté là à m'écouter avec sagesse. Sagesse humaine. Et il m'a dit, je dis, Pépé, tu n'as plus rien d'autre à dire. Je n'ai plus rien à dire. Comment? Parle-nous. Il me dit, oui, ma fille, je me retrouve dans une situation difficile. Je dis, comment une situation difficile? Il dit, toi, tu es mon sang. Il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Mais l'autre aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Il est au rang d'enfant. Qui veux-tu que je sacrifie pour qui? Je suis en position difficile. Mais c'est ça. Parce que quand vous avez l'habitude d'aller, dire tout. Quand il va vous donner des conseils que vous n'allez pas pratiquer, ça va les énerver. Un. Deux. Quand il y a certaines choses que vous courez dire de l'autre côté, c'est surtout les femmes qui font ça, courir encore chez vos mamans pour dire, ah bon, j'étais allée dire ça à ma belle-mère, voilà ce que ma belle-mère a dit, elle n'a même pas répondu, elle était kende même miamé. Elle a dit que bon, c'est comme ça. Vous êtes en train d'envenimer la relation entre les deux familles. Votre propre mère sera braquée contre la belle-mère. Et si déjà la base, vous ne commencez pas à détruire les éléments à la base, qui, quand il y a quelque chose qui doit intervenir, ils ne peuvent plus jamais s'entendre. Mais après, vous vous entendez superficiellement, mais vous gardez des séquelles à vie. C'est mauvais. Quand il y a des situations, on dit c'est une alliance entre deux personnes. Si vous ne l'aimez pas, vous ne serez pas avec nous. C'est vous-même qui avez choisi nous. Et quand vous avez apporté devant Dieu, a approuvé nous. Mais pourquoi est-ce que s'il y a des problèmes, vous ne pouvez pas le dire entre vous? Essayez de régler au maximum entre vous. Si vous n'arrivez pas à régler, faites appel au Saint-Esprit. Il est là pour régler toutes choses. Il va vous aider à régler. Quand le Saint-Esprit vous aide à régler, c'est fini. Vous n'allez pas faire cas. Sinon, ça braque chacun dans son cas. Ah, il t'a fait ça. Ah, ta belle-mère t'a dit ça. Ah, ok, on va voir. Donc, c'est comme ça. Quand les deux vont se voir après, surtout les femmes, on se querelle beaucoup. Ils vont se regarder avec les yeux là. Ah oui, je savais que ta belle-mère ne t'aimait pas. J'avais constaté ça au début du mariage. Tu te rappelles du jour du mariage, surtout les femmes là. Nous sommes des incubateurs. On garde. Oh, le jour de ton mariage, je l'ai vu te lorgner. Ce jour-là, maman, je savais. Et puis des problèmes qui n'existaient pas avant, on ne commençait pas à sortir. Donc, gardons un peu nos bouches. Nous devons les respecter, les honorer. Nous devons leur donner tout le respect que la Bible nous demande de leur donner, mais connaître nos limites. Quelqu'un va dire, les stratégies permettant d'éviter les conflits dans le couple. Il y avait déjà, je crois, un séminaire qui a parlé de la communication externe et interne au sein du couple. C'est-à-dire l'influence des amis, l'influence de nos parents, comment est-ce que nous discutons dans nos couples, quelles sont les sources des conflits. Mais si vous voulez, nous allons peut-être y revenir encore. Comment gérer les visites de la belle famille? Je vous ai déjà dit, c'est-à-dire vous devez vraiment, c'est-à-dire parfois ils quittent le village, ils viennent. Et par rapport à la question de ma soeur qui disait, bon, vous êtes dans une chambre à coucher, quand vous faites bien, vous êtes bien préparé, vous y entrez, vous mettez tout ça là-dedans. Mais c'est parce que des étapes ont été brûlées, que c'est mal fait et on n'a pas où les mettre. Mais dans ce cas, même si vous vous retrouvez dans le cas où vous m'aviez dit, une chambre salon, la belle famille vient, votre belle-mère vient, ça dit que votre belle-mère ne peut pas se coucher dans le lit conjugal. Ce n'est pas bon pour elle. La belle-sœur non plus. Votre lit conjugal, c'est votre lit conjugal. Vous pouvez à la limite même prendre un matelas bien fait, déposé au salon à tout moment. Non, l'intimité du couple doit être respectée. Non! C'est mauvais. C'est très mauvais. Par exemple, il y a des traditions dans lesquelles j'ai déjà entendu dire qu'on a accusé une dame d'adultère. Elle était tombée malade. Ce n'est pas des nés de nouveau, hein? Et ils ont consulté, comme quelqu'un disait, la femme, machin, jusqu'à... On a dit que la dame a quelque chose à dire. Je n'ai rien à dire. Ah. C'est quoi? Elle cherche juste, elle n'a rien. C'est-à-dire, elle n'a eu aucune autre relation. Et alors, on a commencé par demander, ah, est-ce que c'est telle chose? 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 Comment on fait là? On dit non. Eh ben, faire des conneries comme ça. Jusqu'au moment où elle a demandé, mais est-ce que c'est parce que quand j'étais allée au moulin, et le truc dit oui. Ah, il semblerait qu'elle serait allée au moulin. Le meunier, comme dans les villages, il avait son verre de sorabila. Après, les ennemis, et nous, pourquoi faut le courant? Ça fait une union. C'est tout. Hein. C'est pourquoi on la tête d'adulte. Il faut. C'est pas bon pour la belle-mère de se retrouver. Et moi, mais je ne savais pas. Par exemple, ça là. J'ai vu ma mère à des moments donnés venir chez moi. Mais quand on accouche, juste me rendre visite, puisqu'elle est à Cotonou, elle ne dort pas dans la maison des gens. Elle n'aime pas. Son mari ne va jamais vouloir. Elle ne peut pas laisser son mari pour venir dormir chez moi. Et à des moments donnés, quand elle vient, le bébé est là dans ma chambre et tout, elle s'assoit par terre. Mais c'est quoi ça? Comment tu t'assois par terre? C'est pas normal. Assois-toi sur le lit et dis, elle ne me dit jamais rien. Je lui dis, mais c'est quoi la chose? Je t'ai fait quoi? Tu te sens mal à l'aise ici? J'étais même quasiment fâchée. Tu te sens mal à l'aise ou bien c'est quoi? Elle me dit, non. Ça ne se fait pas. C'est votre lit conjugal. Et je dois respecter votre intimité conjugale. Tu n'es plus un enfant, tu es marié maintenant. Sous-toi, sous-toi, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et elle m'a expliqué en détail pourquoi cela ne se fait pas. C'est moi, mais je ne savais pas. On n'est pas en France. C'est les Français qui font tout comme ça, ou bien les Européens, les Occidentaux qui font tout comme ça. Non. C'est-à-dire, vous trouvez toujours quand même une place pour eux, mais jamais dans votre vie conjugale. Ce n'est pas bon. Oui?
On peut considérer la chambre à coucher de l'homme en tant que lit conjugal, et le lit de la femme sera cédé, par exemple, à la belle-famille.
C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Parce que l'autorité, c'est l'homme, hein? Qui rentre sur l'autorité de qui? Et même ces histoires de chambre, c'est pas que c'est interdit, hein? C'est mauvais de faire chambre à part pendant que le couple est jeune. C'est très mauvais. Ça brise beaucoup les foyers. Et souvent, j'en parle ici. Quand vous faites chambre à part, quand il y a de petits problèmes, l'orgueil vient. L'esprit de l'orgueil vient. Je n'y vais pas. On dit, je n'y vais pas. On va voir. Mais la femme ne peut pas tenir longtemps. L'homme, quand il sort maintenant, au lieu de revenir à la maison à 18h, revient tard la nuit au moment où tu dors. Et lui-même, il dort un peu. Le matin, vous vous croisez dans le couloir. Bonjour. C'est très mauvais. C'est bon de dormir dans le même lit. Quand il y a quelque chose, au moins là, maintenant, ça formait. C'est plus facile de gérer les conflits. Chambre à part le couple jeune là, moi, je déconseille ça, c'est pas bon. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire dans le lit. Il y a des modes de communication qui peuvent se définir dans le lit. Modes de communication, la gestion des conflits peuvent se faire dans le lit. Oui. Il y a une erreur que nous faisons beaucoup. L'erreur là, moi, je déteste. Et je combats autant que je peux. Ça dit qu'il peut arriver un soir, le couple décide, bon, les enfants, vous venez, nous allons dormir ensemble. Mais quand les enfants ne commencent pas à dormir, ils ont leur chambre. Si par exemple, je dis, si vous êtes en location, vous avez par exemple deux chambres, c'est bon que les enfants dorment dans une chambre, que vous-même vous dormez dans une chambre. C'est bon. Comme vous avez une grande maison, que vous avez d'autres pièces, les enfants n'ont rien à foutre dans le lit conjugal. Moi, je déteste. Elle dit, c'est pas qu'ils ne vont jamais venir rester avec les parents. Non, ils vont venir. Mais quand ils ne commencent pas à dormir, hop, je le prends dans ta chambre, dans ton lit. Et parfois, même notre petit garçon, il dit, quand il veut dormir, il dit, viens te coucher avec. Non, pas va aller dans sa chambre. C'est de mauvaise manière, pour plusieurs raisons. Et puis, ce n'est pas bon pour les enfants. Les enfants commencent à voir des choses horribles. Quand les enfants commencent à se réveiller. Et puis, les femmes, vous savez pourquoi c'est encore mauvais? Les femmes aiment trop entretenir les relations conflictuelles, les situations conflictuelles par les enfants. Donc, on a zévié tous en faux. C'est mauvais. C'est pas bon. Et puis, moi, je passe la voiture de ma belle-mère. Je suis heureuse de la passer. On est en de bons thèmes. Je rentre là-bas, je mange à la cuisine, je l'aide. Elle dit, ça fait plaisir, vous vous sentez vraiment. Alors que moi, ma belle-mère n'a jamais eu de fille. Elle n'a que de garçon. Mais quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, quand vous n'avez pas une certaine sagesse, c'est là où ça tourne rapidement au vinaigre. Ah non, c'est parce qu'elle n'a jamais eu de fille, c'est parce qu'on cherche le verre dans la plaie. Aïe! Non! Ça dit que moi, je disais à quelqu'un, le bonheur, ce n'est pas un état physique que l'on voit. Le bonheur, c'est la capacité à vivre heureux, même si l'on n'a pas ce que l'on aime ou ce que l'on veut. Ça, le bonheur, la capacité à vivre, même heureux, même si l'on n'a pas ce que l'on aime ou ce que l'on veut, c'est le bonheur. C'est un état d'esprit, on choisit de vivre heureux. Pourquoi faire des trucs? C'est-à-dire, je ne sais pas, quand quelqu'un me parle de fondement du couple, que ça dépend du couple oriental, ça, on appelle ça technique, théorie, machin. On est en train de parler ici de nous et de la Bible, les fondements du couple selon la Bible. Laissez Occident. Occident n'est pas Dieu. Occident n'a pas laissé de parole à laquelle nous allons obéir. Arrêtez, laissez les blancs et puis faisons les choses comme la Bible nous dit. Quand l'homme refuse, quand l'homme commence par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où le péché vient. On chasse du jardin d'Éden, vous n'avez pas la paix avec vous. Oubliez-moi ça. Pourquoi on va faire comme eux? On dit comment réussir son foyer, on va faire un thème. Comment gérer ses finances pour éviter d'engloutir son capital dans les dépenses familiales. Ah! Vous aussi là. C'est l'école de prospérité. Attention, vous n'avez pas effacé. Je pensais que c'était pour nous. Donc voilà un peu. Nous devons gérer quand cette relation-là est bien. Vous ne pouvez qu'être épanoui dans votre foyer. Quand par exemple, il y a des situations que vous n'arrivez vraiment pas à gérer, ça vous dépasse tout ça là. Quand vous dites, ah, il y a juste un petit problème, mais bon, il est fâché, je n'ai pas compris. Hein? Il m'entend tirer. Quand il va, elle va l'appeler. Et là, il dit, on va le faire. Et là, vous allez dire, ah, pourquoi si? Ou bien vous dites, comment dire, ah, mlin. Fais ci, fais tel. On vous donne des astuces. Mais quand vous êtes éloigné d'eux, vous allez multiplier les erreurs. Et au final, tout le monde vous regarde. Tu vas venir te marier, non? C'est ton mari. J'ai rien dit. C'est ça. Donc, des deux côtés, voilà le comportement à tenir. Les beaux-parents aussi doivent savoir bien se comporter et ne pas répondre, ne pas développer des comportements de manque de politesse vis-à-vis de leur belle famille. Non, calmement, fermement, selon la parole de Dieu, on règle. C'est bon? Il y a d'autres questions? Sinon, on va arrêter. Oui.
Bon, c'est par rapport au chiffre que vous avez mis là-bas que moi j'ai des questions. Bon, si j'ai bien compris, de nos jours, il faut avoir moins 150 000 pour se marier. Ok.
Je dis que pour quelqu'un qui doit entrer dans le mariage, il doit être un homme mature. C'est pourquoi quand vous voyez des gens à 23 ans et que vous voulez leur confier la vie de l'autre, il va en faire quoi s'il ne maîtrise même pas sa propre vie? Il est encore jeune au sein. Et il veut prendre l'enfant d'autrui encore sur lui. C'est pour faire quoi? C'est la maturité. C'est la responsabilité. Quand vous savez les charges que vous devez supporter, comment, c'est-à-dire votre devoir en tant que mari, vous allez faire aussi vos calculs, ça intervient. Parce que si vous n'avez pas le minimum à donner à votre femme, à vos enfants, c'est là où vous les poussez parfois même à l'adultère. Vous dites que c'est ma femme. Si je paye le courant, toi, tu payes l'électricité. Si tu veux, tu payes l'eau. Ça ne veut rien dire. Et après, ils sont obligés d'aller se prostituer, vous apporter de l'argent. Il y a des hommes qui prennent encore. Il y a des hommes même qui acceptent sortir avec leur femme. Et la femme dit, C'est mon frère. Et il est assis à cause de l'argent. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des hommes qui envoient leurs enfants se prostituer pour leur donner à manger. Donc je n'ai jamais dit ça. Je dis, mais quand il fait ça, et il veut prendre une décision, et ce n'est que sur ça qu'il se base, il n'a plus rien d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous voyez par exemple dans nos... des jeunes qui veulent se marier, au lieu de faire recours à leur famille, même si ce n'est pas la famille qui va sortir tout l'argent pour faire la cérémonie de dot. Non, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas la famille de l'homme qui sort tout son argent pour aller faire la dot. Non. S'il atteint un certain niveau, il doit participer. Mais l'argent de la famille doit rentrer dedans, forcé. C'est la preuve que retournons est assis. Mais si vous êtes là, et on vous donne une liste de 600 000, vous allez commencer par négocier. Je me l'ai dit à Rignon. Faites des conneries. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, alors que l'on s'y met. Si déjà avant d'aller là-bas, vous vous retrouvez à dire, ah, pardon, hein, négociez là. On sait déjà ce que l'enfant, il a vivre là-bas. Vous n'avez pas d'arrière solide. Et après, on passe dans les églises, vous dit, frère, président d'église, je vais me marier. Vous serez mon parrain. Les parrains que la jeunesse cherche aujourd'hui, c'est des bailleurs de fonds. Non, mais c'est ça dans les églises. Je mens. Quand quelqu'un vient vous dire, hein, je vous appelle, ça dit, le Seigneur m'a montré, c'est comme ça qu'il commence. Et donc, je me dis, c'est à toi que le Seigneur parle. Attends, il n'a qu'à me parler. Quand on vient voir quelqu'un pour dire, bon, je veux que vous soyez mon parrain, il est en train de te dire, prends mon mariage en charge. Prends la charge, merci, sponsor. Mais c'est ça. Et comment tu vas vouloir te marier? Et c'est ton parrain qui va, il est ta famille pour aller t'amener la femme. Il peut y arriver quand vous êtes pour dire, bon, faites comme ci, faites ça. Voilà, suivi spirituel, suivi moral et tout. C'est ça. C'est à ça que ça sert un parrain. Mais on ne commence pas à faire la soumise là, il a pardon. Donné, c'est que le frère là, c'est un jeune étudiant. Et puis je vois parfois des hommes de Dieu qui soutiennent ça. Le gars, il est étudiant. Il dort sur le campus, il a studio là-bas. Il n'a même pas de maison. Il n'a pas de capacité de se louer une maison. Et un pasteur se lève pour donner l'enfant de quelqu'un à ça là. Oui, mais c'est ça. Et après, on dit que oui, ça ne marche pas. Il a fait ci. Le gars, et puis, il a dit même la dot que le gars paye, ce n'est pas son argent. On a dû cotiser, joindre plusieurs bouts. Quelqu'un a donné un peu de tissu was. Quelqu'un a acheté bazin. Quelqu'un a acheté quelque chose. On appelle ça jokle. Oui, pour aller doter quelqu'un. Et après, vous envoyez les enfants des gens à l'abattoir comme ça. C'est pas normal. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Mais c'est ça. Donc, quand vous n'avez pas de base solide, ne jouez pas à ce jeu-là. Quand votre pantalon est encore ici, hein, c'est pas encore là. Pardon. Quand c'est quelqu'un qui vous donne des tébassous, quand c'est quelqu'un qui vous donne de l'argent pour vous coiffer, même 200 francs pour aller vous coiffer, là, à des moments donnés, vous n'en avez pas. Vous voulez prendre femme. C'est pas que c'est ça-là qui détermine, mais ça-là aussi est dedans, c'est inclus. Il faut avoir une certaine capacité. Parce que quand on dit papa, là, c'est qu'il y a des choses, des actes que vous posez. Et c'est pas cet acte-là qu'on dit, ah, c'est le responsable, c'est le chef de la famille, ça. Vous voyez des gens, ils se rencontrent comme ça dans la rue, puis en même temps, concubinage, beau, enfant sort, et puis c'est fini. Si quand vous faites ça, là, on ne souhaite pas. Mais l'enfant de quelqu'un meurt sur la table d'accouchement. Vous voulez apporter ça à qui? C'est concubinage. Vous connaissez personne. Vous voulez amener ça à qui? C'est là où, à des moments donné, certaines familles disent, ah, il a empoisonné mon enfant. C'est clair. D'autres vont jusqu'à dire, en tant que mon enfant était à vie, mon enfant ne voulait pas, il l'a kidnappé. C'était, il vous donne, c'est-à-dire pour vous pourrir l'existence, ne serait-ce que pour quelque temps. Ils imaginent les pires scénarios du monde. Mais non. Mais non. J'espère que tu as compris. Bon, nous allons prier.
Excellent Père de gloire, nous venons te dire merci. Merci pour chacune des personnes ici, pour leur famille existante ou à venir. Qu'il te plaise d'inscrire ce que tu leur as communiqué ici sur la table de leur cœur et que ces choses soient de précieuses semences dans leur bonheur, dans la vie Zoé qui va régner dans leur famille. Que toutes les familles en difficulté soient restaurées au nom de Christ Jésus. Que toutes les familles en constitution soient conduites selon ta volonté ou détruites immédiatement si ce n'est pas ta volonté. Qu'il te plaise, Seigneur, de donner à chacun la sagesse de marcher selon ta parole pour jouir de tous les fruits que tu as prévus pour un mariage heureux. Que tu puisses donner à nos parents, à nos frères, à nos sœurs qui ne te connaissent pas encore, la grâce de venir à toi afin que nos relations soient plus faciles. Car parler avec des gens qui ne te connaissent pas, c'est toujours difficile. Donne à chacun de nous qui te connaissons déjà la grâce d'être la vraie révélation des enfants de Dieu, celle qui va montrer aux autres que tu es un Dieu qui porte des fruits, un Dieu qu'il est agréable de servir. Merci Seigneur parce que tu prends en charge chaque vie ici, que tu détruis toute trace de maladie, que tu relances les vies, que tu effaces toute chose que Satan a semé qui ne vient pas de toi, que tu donnes à chacun la force, le zèle, la vision, l'enthousiasme, l'énergie et l'onction pour accomplir sa parfaite destinée avec l'homme et la femme que tu lui as destiné. Sois béni Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse dans les vies et que tout ce qui est en cours qui ne vient pas de toi soit détruit pour ne laisser place qu'à toi. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution est